journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle, représentant de la CFTC, Euretma, Euf, Idil, des gens en colère qui veulent pas être présents. Nous, bon, écoutons cette émission. Moi, Christophe et Starlette sommes les piliers d'un mouvement qui ne saura prendre fin qu'à la fin de l'émission. Nous vous écoutons le fait qu'il y a quelques mois, voire un année, un invité que je ne citerai pas, Fred Duval, s'est invité à ne pas venir à cette émission. Donc, nous boycottons cette émission. Bon, vous aurez quand même une bande de lèche-cul qui va y aller. Lulu et sa femme, Idouille. Oui, effectivement, le Nabo, Arnaud. Il y aura également... Forcément, bah oui, il faut qu'il soit là. Freddy, il avait peut-être un quiz à la con. Et l'autre, ah, qui tient les manettes de cette émission, Nico. Au nom de tous mes sympathisants, nous ne serons pas présents. Nous ne supportons pas les gens qu'on invite et qui ne viennent pas. Sinon, à part ça, je vous souhaite une bonne émission. Je regrette de ne pas être là pour pas boire du bon vin et manger une bonne entrecôte parce que je crois qu'il y avait un truc à faire griller. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Nous ne referons plus jamais cette émission. Peut-être on reviendra, je ne sais pas, pas sûr. À bientôt, bonjour. Les intermittents de l'entrepôt en colère. Je vous dis bonne émission quand même.
Mais il s'est surpassé, ah, lui. Hein.
Bon, bah, je vais peut-être y aller.
Il s'est surpassé.
Donc, bah, voilà, il y avait un message, il y avait une revendication. Je sens que Marius était très, 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 très remonté hier soir.
Je te jure.
Et t'es pas un peu pété aussi?
Je sais pas. Toujours être à l'écoute.
En tout cas, il le joue bien.
Il le joue très bien.
C'était son état normal, je pense. Mais bon, après. Voilà, donc nous voici réunis, effectivement, comme l'a dit Marius, enfin. Avec une équipe un peu partielle et enfin, hein, enfin. Finalement, oui. Puisqu'avec Fred, on a eu l'occasion de se croiser régulièrement,
de se rater.
C'est un peu le terme en fait. Donc à plusieurs occasions, que ça soit à la route du livre, que ça soit même à des concerts de Kenkyu, j'ai appris récemment.
Oui.
Donc pour l'anniversaire d'un
incognito.
Ah oui, incognito. Exact. Ah oui, oui, voilà, c'est vrai.
À l'époque, nous ne savions pas qu'il nous posera un lapin.
Ah bah oui, c'est vrai.
Et donc bah voilà, après presque 2 mois, ça fait 2 mois qu'on n'a pas enregistré, ouais, d'émission, nous sommes invités par Fred à enregistrer chez lui, hein, c'est vraiment un moment.
Et quelle invitation, parce que franchement, on est vachement bien, on est bien traité.
On peut préciser, c'est quand même Fred Duval, l'auteur bande dessinée.
Oui, quand même.
Ouais, ah oui, c'est pas Fred Duval, le boulanger
de la rue de Neufchâtel. Et donc oui, bah on se retrouve là donc sur les hauteurs de Rouen. Alors Fred Duval, bien sûr, vous en avez forcément entendu parler si vous écoutez l'Entrepod, et vous l'avez certainement aussi croisé si vous arpentez les rayons des librairies BD. Mais on reviendra dessus très prochainement puisque c'est principalement le sujet de notre émission. Et donc pour fêter les 3 ans de sa non-venue, il nous a gentiment invités chez lui. Donc ça, c'est quand même un geste assez noble. Donc merci Fred. Hein.
On a bien mangé.
C'est un achat.
On a bien mangé.
J'adore la corruption.
Tu te sentais un peu obligé de toute façon.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et Nico, je sais pas si tu te souviens au début de l'Entrepod, tu nous avais dit non mais le but c'est qu'on se fasse inviter chez les gens, qu'on se fasse rincer le pinard et tout.
Le début d'une longue série.
Ça marchera jamais.
Et en fait, ça y est, on y est arrivé.
C'était le dernier épisode de l'Entrepod.
Et puis Didou, il a piqué 2-3 saucisses qu'il a mis dans le sac pour les gamins ce soir, comme ça ils ont de la viande.
Et ça, c'est cool.
Non, c'était pour moi.
Et tu les as pas mises dans le sac, je crois.
C'est classe.
Alors là, Arnaud, bravo.
Non, c'est pas moi qui ai parlé, c'est Freddy.
C'est vrai que vous avez des voix assez similaires. Hein.
Mais, et donc, c'est un compliment.
Donc 3 de nos chroniqueurs ne sont pas là, donc dont Marius qui forcément est parti en Bourgogne, hein, vous en doutez bien. Hein, il avait certainement une soif de dernière minute.
Bah, il fait chaud en ce moment. Ouais. Hein.
Exactement, il a pas dû se rincer assez le gosier certainement les fesses, donc il avait besoin d'aller boire un peu de pinard. Et donc c'est un épisode où on va reprendre un peu nos habitudes. Donc on a un épisode avec un invité, ça veut dire que nous avons 3 rubriques qui viendront ponctuer cette émission, puisque tout sera effectivement concentré autour de Fred, notre invité. Pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, donc un petit résumé, donc 3 rubriques, un échange avec l'invité, un quiz. Un coup de cœur, exact, où chacun passe en 1 minute pour passer ses coups de cœur, et nous aurons aussi
un striptease.
Alors j'allais parler de Georges, mais je suis pas sûr que c'était ça qu'il avait prévu.
Allez Georges, allez.
Ah bah si, finalement il avait prévu.
Ouais. Starlet, tu rates.
Et donc Georges P qui viendra jouer deux morceaux en live à notre micro. Donc voilà, à l'invitation de Fred, des amis de longue date. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend. Enfin, on verra bien ce que ça donne, hein, parce que
je parle d'initiative.
Ah après. Oui, d'initiative. Après le rendu, on verra
j'ai
bien.
Pas dit très bon résultat.
Et puis bon, en préambule, moi, je voulais faire un petit retour assez rapide sur ce qui nous a occupé la semaine dernière avec Ludo et Marius. Bah, quand même, nous avons eu la chance d'avoir des passes qui ont été offerts dans le cadre de l'Entrepode par l'organisation du Hellfest. Donc, sans s'apesantir plus que ça, parce qu'on fera un billet spécial sur le site. C'est vrai que c'était une grande première parce qu'on était trois avec Ludo et Marius et c'était un vrai moment de plaisir de le faire, de partager ce festival. Et puis Marius qui a eu la chance d'avoir une accréditation et on a pu voir ses premières photos
très belles.
Qui donnent vraiment.
Ça me fait mal au cul de le dire, mais très belle.
Il a pris des très belles photos du festival. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer un peu des photos, des vidéos à droite à gauche. Donc,
oh, si peu.
Si peu.
On a pollué ma timeline.
J'avais prévenu qu'on pouvait se désabonner ponctuellement pendant tout le week-end. Donc, un grand merci à l'équipe d'organisation du Hellfest qui nous a permis de participer à ce moment. Je sais pas si toi, Ludo, tu voulais.
Ah oui, non, mais tu as quasiment tout dit, en fait. Avec des moments vraiment très, très forts. Mais du coup, on y reviendra, on fera un petit billet, et puis on agrémentera ça de photos. Et voilà. Non, ça permettra de donner un peu une idée de ce qu'on a pu vivre tous les trois.
Même si le Hellfest, ça ne se raconte pas, ça se vit.
Oh, c'est beau, voilà. Tu racontes ça. C'est un peu comme l'Ibis Hôtel de Nantes, ça ne se raconte pas, ça se vit.
Ça, par contre, on ne le racontera pas. On ne le racontera pas, Ludo, par contre. Et donc, je vous propose d'attaquer directement l'émission.
Ouais, ravi de partager ta couche ce week-end.
Voilà. C'était les choses que je voulais pas raconter.
Trop tard.
Et donc, justement, pour attaquer l'émission, on va commencer directement par un petit interlude musical. Hein. Freddy, tu vas nous faire une petite introduction, présentation de Georges avant qu'il se produise à notre micro.
Absolument, c'est parti. Voilà. Donc, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Georges P au micro de l'Entrepode. Alors, c'est une petite parenthèse musicale dans l'émission d'aujourd'hui. Alors Georges P, c'est Georges avec un J, pas à l'anglaise mais à la portugaise, encore que vous allez voir que les frontières sont parfois pas si éloignées. Donc pour faire un petit peu ta bio, hein, Georges est élevé au rock, à la pop plutôt qu'au fado. Georges est le chanteur de Tweed. Alors c'est un groupe mods français, pour ceux qui n'étaient pas nés peut-être, ou ceux qui n'ont pas bien connu. C'est l'un des premiers groupes français du genre. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu ça, Georges? C'était quand? C'était
Alors
quoi?
Moi, je suis arrivé dans le groupe en 1985, j'étais tout gamin, j'avais 15 ou 16 ans.
Le groupe et existait
le groupe
déjà,
existait déjà, en fait, et ils étaient dissous pour des raisons qui les concernaient eux. Et moi, je suis arrivé dans le groupe, ils m'ont demandé si je voulais. Moi, j'étais fan, j'étais... tout content. J'étais encore au lycée et puis ça m'a permis de faire des super trucs. On est parti en tournée, on a été signé par une grande maison de disques, tout ça, c'était sympa.
Tu nous rappelles ce que ça veut dire, le genre mods?
Le genre mods, bah les mods, en fait, c'était un truc dans les années 60 qui était un peu le pendant de tous les teddy bears d'influence américaine. Les mods, c'était plus des gens qui étaient aussi influencés par la musique américaine, mais plus par la musique soul, la musique noire. Et ça a véhiculé des groupes comme les Who, les Kinks...
voilà. Des références, quoi.
Des grandes références. Ouais.
Alors ça a duré quelques années. Moi, j'ai raccroché les wagons avec Victoria un peu plus tard, formé à Rouen, c'était quand? Dans les années 90?
Fin des années 90, début 2000. Moi, j'ai arrêté un bout de temps entre Tweed et Victoria. J'ai fait deux enfants. Et puis après, j'ai refait le groupe avec Claude, mon frère. On a monté Victoria jusque dans les années 2003-2004. Ça n'a pas duré très longtemps, Victoria, des années intenses, mais
alors voilà
mais
ce que j'allais
courte.
Dire. Ça n'a pas duré longtemps, mais non. Par contre, ça a vraiment bien marché.
Ouais.
Pour le coup, c'était vraiment des influences Britpop, c'était l'Angleterre dans toute sa splendeur, dans le sillon de Oasis, Pulp, Super Furry Animals, je sais pas quelles étaient les références.
C'était la Britpop en fait, et il se trouve que en fait ce groupe était moderne à l'époque en fait, il sonnait comme il fallait que ça sonne au moment où ça sonnait. Il y avait tous ces groupes Pulp, Oasis qui sortaient et qui en fait étaient des gens qui écoutaient la même musique que moi. Depuis notre adolescence, et puis ça a fini par donner des groupes comme ça, et on s'est retrouvés là-dedans.
Alors tu l'as dit, c'était avec ton frère Claude, notamment, Claude, avec d'autres aussi, et puis Victoria n'a pas tout à fait disparu, se reformant à l'occasion ces dernières années, emmenant avec lui des fans fidèles de l'époque dont on parle, et puis il y a le She Was, par exemple, qui est un titre de l'époque, qui est ressorti en deux titres il y a trois ans, c'est ça?
C'est ça, en fait, Closer a ressorti l'album en vinyle, avec la machine à sourds. Et puis on en a profité pour retourner en studio, enregistrer un deux titres et puis faire un concert au 106 pour la sortie du vinyle.
Qui était très bien, je me souviens.
Et bah tant mieux.
Y avoir assisté. On écoute tout de suite un petit extrait de She Was. Ah, She Was, pour ceux qui se souviennent, c'était bon ça. Je te vois hocher de la tête, là,
ça te lasse pas. Ça, hein. Donc, non, en fait, effectivement, je trouvais que le son était pas mal.
C'est moyens techniques de l'entrepôt.
Côté Tamla, c'était bien.
Donc plus tard, il y a encore une autre aventure avec Second Floor Orchestra. On a vu Arthur qui faisait un peu la pub sur son t-shirt aujourd'hui.
Ouais, il croyait que c'était la télé, en fait.
Et que Fine Fleur de la pop à la Rouennaise, ça a duré un petit moment. Et puis, il y a quelques années, tu replonges en solo ou presque.
Tu replonges.
Oh là là, mais tout seul, cette fois, en solo. En solo ou presque, je disais, puisque ouais, Arthur t'accompagne ouais, la plupart du temps.
Important, Arthur.
Qui est parfois la basse, mais parfois la guitare, comme aujourd'hui.
Voilà.
Et puis, alors c'est quoi? C'est un style un peu plus personnel
C'est beaucoup plus simple, c'est plus acoustique. Moi, je préfère maintenant, j'en ai un peu assez des...
Tu parlais de l'air du temps tout à l'heure avec Victoria, là, c'est à nouveau pour ce...
Non, je crois pas que ce soit l'air du temps, c'est vraiment parce que j'ai envie de faire des trucs acoustiques, me concentrer sur l'essentiel, en fait. Puis avec Arthur, ça se passe bien, on s'engueule pas trop.
Alors, il y a le morceau Liverpool, notamment, qu'on va entendre tout à l'heure. C'est quoi? Qu'est-ce qui te branche aujourd'hui? Qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui? Hier, j'ai écouté le dernier Ray Davies qui est sorti, le deuxième tome d'Americana qu'il avait fait. Là. J'écoute toujours les mêmes trucs. J'aime bien Courtney Barnett, un groupe qui s'appelle The Clientels, qui est un groupe anglais qui fonctionne qu'aux États-Unis, que j'adore. Jane Clover. Madame Courtney Barnett. Voilà, ce genre de choses que j'écoute. Des trucs un peu modernes, puis après j'écoute toujours les mêmes trucs quand même.
Très bien. Tu étais hier à Montfort-sur-Risle.
Oui, on a joué à Montfort.
Est-ce qu'on te voit quelque part ailleurs dans les semaines à venir?
On va partir en vacances, on joue à la rentrée au festival de Barfleur qui s'appelle Musique en Serre. Voilà.
Très bien, rendez-vous est pris.
Et puis après on joue à Rouen, une date je pense au mois d'octobre, mais on ne sait pas encore où exactement.
Alors on va suivre ça, il y a une page Facebook notamment
sur ma page personnelle, en fait.
Voilà, on peut retrouver tes dates et ton actu. Merci beaucoup d'être venu, on va vous laisser rejoindre la petite scène, là on est chez Fred et Fred
a fait une
scène dans son salon. Voilà, c'est mieux que certaines scènes locales, là, c'est vraiment le grand luxe.
Fred, ça fait quand même, je sais pas, 35 ans qu'on se connaît, à peu près.
Tu peux parler dans le micro, hein, Fred, hein, pour parler de ton,
35,
ton pote.
35 ans qu'on se connaît.
C'est comme chez toi. Hein.
il m'a tué dans le premier Wendy.
Ouais,
dans l'épisode 1 de Wendy. Au bout de la deuxième page, je disparais.
Ouais, ça se passait au Portugal. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion.
Il paraît même que Georges dédicace ton album en disant, en signant le gars qui meurt à la page 2.
Ouais, tu joueras pas dans le 2, toi. Et... Hop. Ouais. Voilà, non, on se connaît depuis les années 80, depuis les années. Exocet, les Dogs, toute cette ambiance du rock de Rouen, en fait.
Bah ouais.
Ouais.
La scène rock rouennaise, la fameuse. Merci en tout cas d'être venu et on vous laisse rejoindre la scène. Merci à tous. Merci à plus.
Salut, merci.
On y va tout de suite, Georges P. On y va, c'est parti pour un live pour l'Entrepod.
Name is like a king, smile is like a spring. You have no answer to the question, no one understands at all. The light in the eyes you bring is like a diamond or a ring. Have no answer to the question, no one understands at all. And everyone says what everyone knows. When I think about it, it's a room without a view, it's a moon without a new. Everyone says what everyone knows. Anything about it, it's a river without a bell. Liverpool without the rest. Oh. answer to the question. No one understands at all. Give him a bottle right away. And his smile come back and stay. Have no answer to the question. But I don't give a fuck at all. Everyone says what everyone knows, and they think about it. It's a room without a view. It's a mood without a new. Oh, everyone says what everyone knows, and they think about it. It's a river without a bed. Liverpool without the rain. It's a river without a bell. Liverpool without the rain. It's a river without a bell. Liverpool without the rain.
C'était donc Georges P avec le titre Liverpool, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre petite chanson prévue?
Arcot Street.
Allez, on y va alors. Tout de suite, Georges P, toujours en live, toujours pour l'Entrepode.
Walker Street. It's a lovely, lovely place to meet. Let me bring you down to Walker Street. Slowly, feet by feet, you will see. Stephen's grill, you made clear on you, made you. Jerome and his brother speaking Zeus, funny friend Shiatsu. That everyone will understand why you're ready for today. Let me take you on my way to Echo Street.
Bravo! Voilà, c'était chouette.
Waouh!
C'était ça, bon? Bah, super. Merci en tout cas à Georges et Arthur d'avoir,
ouais, les voix sont fantastiques,
d'avoir fait ce petit morceau, rien que pour nous, ces petits morceaux, rien que pour nous. Et puis, bah, avant d'attaquer avec Fred, je propose que, pour qu'il s'imprègne un petit peu de l'ambiance, etc., que Freddy nous lance avec sa première rubrique.
Ouais, tu vas
nous
faire. Que j'ai volé. Alors, à
que t'as volé à Starlet. Ouais. Donc, est-ce qu'on te met le jingle de Starlet quand même?
Ah oui.
Ah, oui.
En plus, elle l'adore Starlet, donc c'est le moment de.
Quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à.
Elle était ivre morte ce jour-là.
Je m'en lasse jamais.
Vous avez presque la même voix aussi.
C'est vrai.
À toi, Freddy.
Je suis assez caméléon de la voix. Du coup, moi, j'ai pris la rubrique de Starlet qui s'appelle « J'ai testé pour vous ».
Et qu'as-tu donc testé ?
J'ai testé pour vous la fabrication de mon premier module en bois. Le kaléidoscope, vous connaissez ?
Ah oui.
On y est allé !
Eh oui, si vous êtes fidèle poditeur, et ça, personne n'en doute, vous savez que c'est une petite queville chez Caroline et François qui nous avaient gentiment reçus lors d'un précédent épisode de l'Anthropode. Guillaume, qui était également à la fabrication d'objets numériques. C'était quand ? C'était en début d'année ?
C'était en janvier.
Voilà. Et puis, on avait eu l'occasion de faire une petite visite des lieux. Et on avait vu cet atelier menuiserie qui donnait envie d'attraper les instruments. Alors,
Les outils, peut-être.
Autant vous dire que le fait d'avoir fait l'entrepôt de là-bas, ça ne m'a pas octroyé un traitement de faveur. Pire, j'ai même eu à subir un bizutage.
Oula, je crains le pire.
Ouais, la bite au copeau.
À la défonceuse ou pas?
Pardon, mais j'ai eu JR à dîner cette semaine. J'ai bien peur qu'il ait trafiqué mon document. Voilà. Alors, d'abord surprenant, puis pas tout à fait désagréable. C'est quand il a fallu manier la défonceuse que j'ai mis les pouces. Bon, ça suffit les conneries. Je suis là pour fabriquer mon premier module en bois. Alors, direction l'atelier de menuiserie, celui qu'on avait visité, avec François et Astrid, une autre stagiaire qui, on le verra plus tard, se montrera bien moins douée que moi.
Ah, bon, je reconnais là ta modestie naturelle.
Et ton talent.
Alors, bon, c'est parti, on prend le matériau en main, du bois aggloméré avec de la colle, vous savez, ces plaques, je ne sais pas si vous visualisez tous.
Tout à fait.
Qui nous prend pour des bleus?
Comme je suis super chiant.
Des impros des chantiers, je te rappelle.
Alors, je suis super chiant et j'ai demandé une dérogation à François. Il se trouve que j'ai chez moi un ampli vintage, un Luxman L31. Vous voyez comment c'est ?
Le monsieur s'emmerde pas.
Fred voit, je savais qu'il verrait.
Quel prophète.
Bah, moi, le mien, je l'ai cassé en fait. J'ai le boîtier autour, je l'ai cassé. Et j'ai demandé à François si je pouvais faire mon boîtier sur mesure dans le cadre de cet atelier-là, plutôt qu'une étagère à la con qui servait à mettre une céramique ou une autre connerie, pareil.
Ouais. Une connerie de poterie à la con, quoi.
Voilà. Et donc, je lui ai cassé les pieds, il m'a raboté la main, j'ai crié, il a accepté.
Bon, c'est beau.
Nous voilà sur la scie à format, précis, facile, efficace. Quatre planches dans lesquelles il faut maintenant faire des encoches. Alors, quel outil on utilise pour faire les encoches?
Une encocheuse.
Une encocheuse.
Une dégauchisseuse.
Ah non, là.
Une cochonne.
La défonceuse.
La tourne manivelleuse.
La fleureuse.
La défonceuse. L'instrument qui nous fait rire rien qu'en disant son nom.
Laquelle?
La défonceuse.
Ah, la fameuse.
Par contre, pas facile. On a réussi à agacer François, pourtant très calme.
Ah ouais?
Il faut du toucher, il faut du doigté. Ah. Alors que nous, on a envie de tout défoncer.
Alors, juste une précision, tu n'es pas bricoleur à la base ou tu as comme quelques notions?
Mais si tu m'as bien écouté en début de rubrique, tu sauras que je ne suis pas du tout bricoleur. Non, je suis pas.
S'il fallait en plus qu'on écoute les rubriques de tout chacun, on n'est pas barré là quand même.
Je suis pas du tout bricoleur, je suis pas du tout manuel.
D'accord.
Et ça me faisait même peur. Ça me faisait même un peu peur de faire cet atelier parce que j'avais peur de pas y arriver, de pas m'en sortir.
D'accord.
Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de rubrique puisque c'est ma phrase suivante.
Ah oui.
Si tu avais bien écouté sa phrase suivante.
Donc, si je comprends bien, en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà.
Ok.
C'est chiant, tu n'écoutes pas la phrase d'après.
Je me disais que j'avais rien entendu.
Voilà. Il faut savoir déjà que on laisse sécher 2 jours et on revient pour une deuxième session.
D'accord. Si tu laisses sécher quoi?
Un peu comme avec ma femme, en fait.
Voilà. Une fois qu'on a utilisé la défonceuse. C'est-à-dire qu'on a les encoches,
ouais.
On met les petits pitons, c'est un nom technique que j'ai pas retenu. On met de la colle.
Ouais.
Ah oui,
on serre tout ça avec.
Non, parce que moi j'étais resté que sur les encoches, je savais pas qu'il y avait de l'encollage.
Non, non, oui, il y a de l'encollage et on laisse sécher pendant 2 jours.
D'où le séchage. Ok, exactement. Ça marche.
Et puis, donc on laisse sécher 2 jours, on revient pour une deuxième session, la colle a séché, François s'est calmé. Le travail peut recommencer. Ponçage, finition, cirage, et je suis reparti avec mon module dans lequel s'encastre parfaitement aujourd'hui mon ampli, mon luxe. Oh,
t'étais fier, non?
Ah oui.
Mais pas qu'un peu, figure-toi.
Bah, tu m'étonnes.
C'est un bel objet qui est bien fini, qui est bien.
Bien uni,
qui est unique aussi, quoi.
Qui est ciré.
Et c'est moi qui l'ai fait.
Qui est ciré, qui est unique, du coup, ouais.
Et pourquoi tu dis que ta collègue, là, elle s'est moins bien débrouillée que toi?
Non, c'était pour le.
Ah oui, c'est parce qu'elle aurait pu, elle aurait pu repartir avec un petit tas de machins.
Elle est repartie avec sa.
Avec des copeaux.
Avec son étagère. Bien propre, bien faite également. Alors, moi, le nul en bricolage, moi qui pensais que les ciseaux à bois, c'était l'autre nom des sécateurs, je suis reparti enchanté de cette belle expérience. Ça m'a coûté 89€ pour 2 fois 3 heures. Matos est fourni. Je repars avec mon objet, et que c'est moi qui l'ai construit. Et je vous fais circuler la photo de l'objet dans sa fonction définitive. Vous allez voir que ça a de la gueule. Et puis, en attendant, si vous avez des questions, si vous êtes curieux de comment ça s'est passé, je veux bien vous répondre.
Est-ce que tu as eu...
Des échardes?
Pas sûr de l'agglomérer, Gino.
Je veux dire, on peut, mais j'en ai pas eu.
T'as pris cet atelier exprès pour faire cet objet, ou t'avais cet atelier, puis tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer cet objet.
Du coup, j'avais ce besoin de faire un nouveau caisson, et je me suis dit, ça ressemble quand même à... Et j'ai demandé à François, qui a gentiment accepté d'adapter.
D'accord, c'est lui qui t'a aidé à faire les plans?
Cool. Bon,
où tu as fait les plans.
C'était juste des mesures, en fait.
Oui.
Et puis on...
Ah, c'est bien parce qu'en plus, ça lui donne un côté vraiment vintage avec le truc en bois.
Ça lui donne un côté unique.
Il n'y a que toi qui as un ampli comme ça, quoi.
Ah, bah, pour le coup, oui.
Il est beau, hein.
Et combien de personnes acceptées dans le cadre d'un atelier?
Ils vont jusqu'à 6 personnes par atelier. Là, on avait beaucoup de chance parce qu'on était 2.
Ah oui, donc plus de disponibilité.
Bah, évidemment, il était toujours avec nous.
Oui, il peut vous accompagner plus facilement.
Donc il y a régulièrement des ateliers pour des modules en bois comme celui-là, mais il y a d'autres ateliers pour d'autres objets. Je vous conseille de regarder sur le site les copeaux numériques.
Ou de réécouter l'émission consacrée au kaléidoscope.
Exactement.
Et Starlette aussi a fait un stage pour faire une boîte aussi en découpe numérique, etc. Et elle a eu ce même retour d'un super moment passé. Enfin, là je parle pour elle, mais c'est vrai qu'elle a eu une belle boîte personnalisée.
Moi j'adore les moulins à vent, c'est possible de...
Si tu demandes à François, il sera très
énervé. Il serait un moulin à vent.
Tu voudrais faire une tour Eiffel en allumette ou pas?
Ou une tour Eiffel en allumette.
On doit y aller avec Starlette pour faire une tête de trophée.
Oui, si vous avez prévu.
Avec la découpe laser.
Oui.
T'es manuel toi, Fred, à part le dessin?
Non, du tout. Mais surtout qu'il fait pas trop de dessin, en fait. Il est plutôt scénariste.
Le dessin, déjà, c'est pas mon truc.
Alors, c'est le bricolage.
C'est dommage, tu m'as piqué la première truc. J'ai pris la décalation en disant toi. Alors Fred, le dessin sur les bidouchons, ça se passe bien?
J'ai arrêté de filer mon il y a 40 ans.
Enfin, là-dessus, je voulais dire la bande dessinée.
La bande, le dessin.
Mais oui, donc es-tu Emmanuel, pas plus que ça?
Du tout.
Pas du tout, non?
Non, aucune passion pour ça, mais j'admire les gens qui le sont.
Oui.
Ah oui, oui, bien sûr.
Et donc, t'as fait des travaux il y a 3 ans. Bah voilà, c'est fini pour.
Il y a madame qui fait des gestes derrière.
C'est fini pour cette rubrique.
C'était vraiment.
Merci Freddy, en tout cas, ouais, ça donne envie parce que.
Je crois qu'elle a juste dit qu'il avait 2 bras gauches.
C'est ça, ouais. Je voulais.
Mais bon.
Tu sais, Fred, alors, c'est un peu quelque chose que je partage avec toi, en fait.
Bah, ce qui est intéressant, Freddy, c'est par rapport à ta rubrique, c'est de se dire qu'effectivement, c'est pas uniquement pour des gens qui ont
évidemment,
déjà cette approche ou cette culture ou cette sensibilité. N'importe qui est juste un peu curieux peut être guidé.
C'est l'initiation aussi, c'est ça que tu veux dire?
Ah oui, parce que effectivement, ça peut un peu peut-être rebuter des gens de se dire, ouais, ils nous ont parlé du kaléidoscope, ça a l'air vachement bien, mais moi, bah effectivement, c'est pas fait pour moi. Je suis pas, j'ai pas d'idée ou j'ai pas de truc, etc. Tu te rends compte qu'on peut forcément trouver une petite idée puis passer un bon moment, quoi.
Moi, j'essaierais bien.
Au-delà de l'idée, c'est surtout que
t'as. J'essaierais bien, oui.
T'as surtout ce, enfin, l'outillage, il est fourni. Tu vas pas forcément investir dans une défonceuse parce que t'auras fait une fois quelque
c'est
chose.
Vrai. Ça coûte très important. Cher.
Oui.
C'est
bah oui.
Tout le monde n'a pas une défonceuse chez soi.
Exact. Toi. Enfin, si moi j'ai eu le dos.
C'est un défonceur, pas une défonceuse.
Bah bravo.
Oh, c'est classe.
Bah pour une fois, je te fais un compliment.
Voilà le compliment.
Le sens du compliment.
Okay, attends, tu rigoles, attends, on m'appelle le boutoir d'Acapulco. Donc...
Bon, avant toute chose, je tiens à préciser à toutes les filles qui écoutent l'Anthropod, il est très cher. Non, mais c'est vrai, l'outillage est fourni et surtout, on a affaire à des professionnels qui
t'encadrent en fait. Ouais.
Qui t'encadrent.
Donc, tu risques pas de faire connerie.
La peur de faire une connerie, elle est minimisée par le fait qu'on sait que de toute façon, ça pourra soit être rattrapé ou en tout cas, le conseil fera que on fera les choses de façon juste et surtout, c'est à proximité. On sait qu'on a ça pas loin, donc autant profiter, quoi.
Mais j'y suis allé. Surtout ceux qui nous écoutent de grâce, je pense que ça les intéressera.
Et toi, Freddy, est-ce que tu te vois en refaire une session ou pas, justement?
Oui, bien
ou
sûr.
Ou c'est du one shot et tu te
non,
dis,
non, parce que...
En plus, maintenant que tu es propriétaire.
Je l'étais déjà, excuse-moi.
Pardon, excuse-moi.
Mais comme dit Didou, ils ont du matériel de qualité professionnelle que je ne pourrais pas avoir chez moi.
Et voilà. Dis-moi, là, c'est des pièces. En fait, c'est une pièce de taille relativement, correct, c'est un ampli. Est-ce qu'il pourrait te permettre de fabriquer un bureau ou alors, vraiment des
moi,
trucs
moi, quand
je sais,
suis
genre...
allé, il y a quelqu'un qui venait de faire sa table.
Porte, non
sa
pas...
porte.
Ah, oui. Ouais. Ah ouais, parce que c'est ça qui m'intéresserait, moi, tu vois, à la limite.
Et voilà.
Le dénigrement absolu. Voilà, monsieur, vous êtes témoin. Voilà.
Monsieur Rêve a fait ses éléments de cuisine.
Et voilà. Et alors, voilà, tu vois. Et après, comment tu veux que les générations futures, elles grandissent.
Bah, fais déjà le carrelage de ta salle de bain, puis on en parle.
Comment tu veux qu'il ait confiance en lui?
Moi, ce que je veux, c'est faire assez toucher, travailler le bois, tu vois, le retour à la terre, tout ça.
Freddy, je me permettrais quand même de m'inscrire en faux. Tu dis que tu es pas bricoleur, pas etc. J'ai participé au montage de ton étagère dans ton bureau. Tu l'avais quand même fait tout seul et c'est quand même pas une étagère IKEA non plus. C'est un truc que t'avais fait les plans, t'avais tout
amateur,
découpé. Oui, c'était quand même pas dégueu.
Ah oui, t'as quand même un niveau.
T'es pas au niveau de Ludo. Ouais.
Moi, c'est IKEA où j'ai du mal. Hein,
Ok, Fred, d'accord, on est d'accord. Non,
parce que... Ok, on voit le niveau aussi. D'accord, on voit
d'ailleurs, s'il y a des ateliers de montage de meubles IKEA, je prends.
Je me demande s'ils font pas ça chez les Suédois. Là.
Ah, tu vois.
Bah écoute, en tout cas, bah merci, parce que c'est un vrai retour, parce que c'est vrai que des fois, on vend du rêve, hein. On fait des trucs, mais là, au moins, t'as eu le courage d'aller jusqu'à essayer ce que nous n'avons pas fait, hein, nous autres. Mais ça m'intéresse, ouais, d'y aller. Peut-être avec Ludo, ça pourrait être...
Bah, ça peut être rigolo, ouais.
J'ai pas d'idée de quoi faire, mais ça peut être, on peut trouver. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon,
toi,
on va passer.
Tu veux faire des plans de travail pour aménager le bureau? Ça fait 100 fois que je te le demande.
Bon, alors là, on est en train de plein règlement.
Écoute-moi bien.
On mettra des photos de leur bureau pour vous rendiez bien compte du,
en fait,
du désastre.
On va faire un spin-off avec le couple.
Eh ben, je vous propose de passer directement à la rubrique de notre invité, puisque Fred n'est pas très doué de ses doigts, visiblement, de ce qu'il nous dit, mais il est doué de plein d'autres choses. Donc, on va voir, tu vas nous présenter un petit peu ton parcours.
Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
Voilà, donc point de chips, et c'est toi qui nous invites, mais en tout cas le jingle est fort.
C'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas l'invité, c'est l'invitant.
Exactement.
C'est vrai. Ouais.
Et d'ailleurs,
je suis content que vous soyez là.
Nous on est très contents d'être là, vraiment. Mmh. Et du coup, on est là pourquoi? Bah pour parler effectivement au-delà de la vanne du fait qu'on a eu un rendez-vous manqué il y a quelques années,
c'est vrai.
Qui était dû à l'époque à la fois pour la sortie de Wonderball, BD qui était sortie pour le premier tome, également pour la première édition, je crois, de La Route du Livre dont tu étais à l'initiative.
Ouais, donc ça fait 5 ans déjà.
Alors c'était peut-être pas ça alors.
Non, Wonderball,
on avait prévu d'en parler,
c'était le troisième tome de Wonderball.
Ah ouais, ouais, je pense aussi. Ah, peut-être alors.
Je pense aussi parce qu'on venait d'emménager dans cette maison, je crois, et c'était un peu le compliqué.
Ouais. Donc en tout cas, t'étais venu pour qu'on parle de ces sujets-là à l'époque. Il s'est encore passé pas mal de choses depuis. T'es en pleine actualité. Tu as plein de choses déjà à nous présenter. On a eu l'occasion déjà d'en discuter un petit peu avant. Mais l'idée, c'est un peu que tu nous. Alors. pour un peu remettre un petit du contexte, parce que Freddy lui-même était un petit peu perdu. Quel est ton rôle dans une BD, dans une création de BD? Quel est ton parcours? D'où tu viens? Et quel est ton quotidien, tes œuvres, etc. Avant, plus tard, de parler de l'actualité présente et puis de l'avenir, qui sait, des choses à venir. Alors,
en fait, présente-toi. Je suis scénariste, c'est-à-dire que j'écris des histoires, je les invente et ensuite je les découpe, je fais des dialogues un peu comme un scénario de film ou d'une pièce de théâtre, et je trouve des dessinateurs, je collabore avec des dessinateurs qui ensuite vont mettre en image, case par case, planche par planche, les histoires que je leur propose. Donc voilà, c'est un travail vraiment d'écriture, de scénario, puis et de dialogue. Voilà, donc j'ai commencé il y a 25 ans à peu près.
D'accord.
Et depuis, j'ai publié 125, 130 bouquins.
Quand même.
Ah ouais, ouais, ça se pose là quand même. Hein.
130 en
20 ans.
En 20 ans.
Les premiers, c'était le 500 fusils et Carmen McCallum en 1995. Ouais. Mais les contrats étaient signés depuis 92, 93. D'accord. Donc voilà, ça fait 25 ans. Oui. Ça, c'est. Au départ, une production un peu lente. Je publiais 3-4 albums par an. Et puis
ce que tu dis, une production lente, ouais, j'allais dire 3-4 albums, c'est.
Non, pas pour un scénariste, parce que le scénario, si on est sérieux, si on écrit tous les jours, on peut vraiment, vraiment écrire 8 bouquins par an, je pense.
Ah oui.
Mais pas au début.
C'est le rythme sur lequel tu es aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Voilà. L'idéal, c'est 4. Parce que là, tu peux, t'es en vacances à moitié de l'année. Quoi.
Et en emmenant plusieurs de front
J'ai jamais eu cette difficulté. Moi, je travaille par semaine, en fait. Donc, je fais une semaine sur Travis, une semaine sur Wonderball. Voilà.
Alors justement, est-ce que tu peux citer quelques succès pour situer un petit peu
Disons que le premier succès, c'était Carmen McCallum en 1995, qui venait un peu de nulle part. C'était la création du label Série B avec Fred Blanchard et Olivier Vatine. C'était le premier album chez Delcourt, donc d'un label chez Delcourt, ça s'appelle Série B. Il a été réimprimé assez vite. La série a eu c'est pas un grand succès à la 13 ou quoi, mais il y a eu une belle reconnaissance.
C'est d'estime au moins, important que Carmen.
Un succès d'estime, voilà.
Carmen McCallum, c'est par là que je t'ai découvert, en fait, tu vois.
Ouais, c'est ça. Là maintenant, je rencontre assez régulièrement des gens qui ont découvert Carmen quand ils étaient enfants.
Ouais, en fait,
Et après, il y a eu Travis qui se passait dans le même univers, que j'ai démarré avant même de publier le premier Carmen. On a commencé Travis en 1994 et le premier apparu en 97. Et puis voilà.
Travis qui est dans l'univers de Carmen.
Ouais, c'est le même univers en fait. C'est
un spin-off,
point de vue.
Ça,
j'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. J'appelle pas ça spin-off. Un spin-off parce que Travis n'était pas un personnage qui était.
D'accord.
C'est plutôt un univers commun.
D'accord.
Et j'ai voulu à l'époque point de vue, en fait. Un deuxième point de vue. Carmen, c'est une mercenaire, elle se vend en plus offrant, donc elle a un côté dominant comme ça, elle décide, elle choisit ses missions, et puis elle se met même par moments, souvent au service des puissants, contre d'autres puissants. Tandis que Travis, c'est le point de vue inverse, c'est-à-dire que c'est un type qui, au départ, est présenté comme une victime de ce système-là. Donc j'aime bien varier les points de vue, ça c'est une de mes grandes thématiques de scénariste, donner deux points de vue. Et donc là, c'est à l'échelle d'un monde, en fait. Et ça, voilà, ça fait 20 ans que ça dure, j'en ai publié une trentaine en tout, dans cet univers-là.
Est-ce que
ça continue toujours?
C'est ton best-seller?
Si on parle de mon best-seller, c'est 13, évidemment.
13, Mystery.
C'est un peu à mettre de côté. Carmen, Jour J, Hauteville House, c'est vraiment je dirais que Carmen Travis, pour moi, c'est le premier succès, on va dire, 95-2005. Hauteville House, c'est le second succès 2005-2015. Et puis Jour J, 2010.
C'est combien d'exemplaires pour avoir une idée là?
Je dirais que les Carmen et les Travis, c'est plus d'un million. Jour J, on doit en être à bientôt 800 000, je pense.
Jour J, combien de
volumes? 500 000.
C'est quoi? Il y a eu combien de volumes de paru? Jour J, il y en a pas mal.
Et Jour J, remettons un peu le contexte, de quoi ça parle? C'est des uchronies? Tu parlais d'un changement de point de vue, c'est vraiment le cas. Quoi.
Ouais, alors Jour J, c'est un travail qui est commun. Hauteville House et Carmen Travis,
c'est tes créations.
C'est mes créations. J'avais créé à l'époque, Olivier Vatine avait
signé le premier Carmen. On avait écrit ensemble. Et après, bon, j'ai continué. Georgie, c'est autre chose. Georgie, c'est vraiment une série concept. Concept. C'est une uchronie dans une collection, en fait, parce qu'il n'y a pas un concept. Oui. Voilà. Mm-hmm. Le concept, c'est l'uchronie. Oui. Mais on a regroupé une envie d'uchronie sur les quatre grandes périodes historiques. Et là, on s'est associé à deux scénaristes, Jean-Pierre Pecot et moi. Et Fred Blanchard, qui est notre éditeur chez Delcourt, série B toujours, et qui participe aussi aux réunions, aux discussions, quand on discute d'un point chronique, et puis on fait en commun une espèce de... et s'il se passe ça, voilà. Comment ça donc Jean-Pierre et moi, là-dessus, on a mis en commun ce que je n'avais jamais vraiment fait lors de ma carrière BD, nos connaissances historiques, en fait.
D'accord,
c'est,
oui.
Voilà, c'est vraiment un côté, on s'est posé comme, on est historiens tous les deux, on est formation d'historiens, qu'est-ce qu'on en fait, et puis qu'on ramène ça à nos délires SF, quoi.
D'accord.
C'est précisément la question que je voulais poser en préparant l'émission. J'ai vu que tu avais fait des études d'histoire.
Oui.
En quoi ça touche ton travail de scénariste aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une méthodologie que tu as gardée? Est-ce que tu as des thématiques?
C'est ça. C'est-à-dire que j'entends parfois dire que la fac, ça sert à rien, que c'est trop général, que ça forme à rien. En fait, non, la fac, ça donne une méthode. Si on joue le jeu, ça apprend à rationaliser le travail, à faire une synthèse. Mmh. Et à s'exprimer devant des gens aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on apprend à la fac qui donnent une certaine maturité, je pense, intellectuelle. Et donc, les études, surtout en fait, ça m'a intéressé à partir de la maîtrise. Là, je me suis vraiment éclaté. Je me suis rendu compte en faisant ma maîtrise que j'avais envie de passer ma vie à faire des recherches et en produire une synthèse ou une forme artistique.
Parce que scénariste, c'est aussi de la recherche, on est d'accord.
C'est que ça. Là, hier, je travaillais sur une petite histoire courte pour le prochain disque d'Arc Mango, si c'est pas encore complètement sûr que ça va se faire, mais en tout cas, on va proposer le truc. Je me suis pris au jeu, j'ai passé ma journée à me documenter sur l'aéropostale, Saint-Exupéry, etc. Bah oui.
Alors après, il y a de la documentation, mais il y a une part derrière d'imagination, projeter ça dans son univers.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, depuis l'enfance, c'est pas toujours facile de parler de soi, mais depuis l'enfance, moi j'ai l'imagination qui court tout le temps, c'est-à-dire que là ça n'a rien à voir avec les études.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai réussi, si tu veux, à
faire se converger les deux.
Faire converger une méthode d'histoire, une et puis une imagination plutôt justement qui va vers la science-fiction, la prospective.
Si je peux me permettre, il y a un exemple, moi, je trouve, qui est parlant, c'est Hauteville-House, quoi. Mm-hmm. J'ai le sentiment que ça combine vraiment Hauteville-House, qui se passe au Second Empire, et c'est très steampunk, et donc ça combine complètement à la fois... c'est le sentiment que ça donne de vraiment une documentation, en tout cas un contexte historique fouillé, et en même temps, des espèces de fils qui sont tirés, comme ça, où tu laisses partir l'imagination sur des points de...
Le secret d'Hauteville-House, à mon avis, pour que ça fonctionne, il fallait que le lecteur qui connaisse Victor Hugo, même celui qui ne le connaît pas, ne se sente pas trahi. C'est-à-dire que ce qui concerne Hugo dans Hauteville-House, c'est plausible. C'est plausible. Voilà. Après, on fait du grand, c'est du cirque avec tout ça. Mais on peut pas, quand on fait une fantaisie comme un récit steampunk, on peut pas dire que Hugo était ami avec Napoléon III, par exemple. Là, ça faudrait le justifier par un point de chose.
Là, c'est pas possible. Voilà. Oui.
Il faut respecter à la fois la trame pour, c'est le truc d'Alexandre Dumas. On fait un enfant à l'histoire et il faut lui faire de beaux enfants, quoi. Donc c'est ça, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire aller vers un univers un peu genre les mystères de l'Ouest. Et ramener ça. La première réflexion de Hauteville-House, c'était de réunir Victor Hugo et Jules Verne, en fait, dans un univers. Alors, c'est sans prétention, hein, c'est juste ces mondes-là, c'est-à-dire le monde politique d'Hugo, les luttes politiques, la réalité, la lutte contre le Second Empire. Pardon, j'ai... Troisième Empire,
le Troisième Reich.
Ouais, c'est ça. On n'y est pas.
Troisième Reich, Napoléon III.
C'est un jour d'histoire. Voilà, et ce Second Empire, et puis en même temps avoir toute l'approche de prospective de Jules Verne, tout le délire qui donne le steampunk.
En fait. Et en même temps, cette méthodologie, on la retrouve aussi dans un sujet. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Les porteurs d'eau, qui est l'album qui est sorti il y a un mois. On retrouve aussi cette... Enfin, moi, qui connais bien ce sujet, j'ai trouvé que tu avais dû te documenter, ou alors tu connaissais déjà bien le sujet, mais je pense qu'il y a derrière ça un gros travail de documentation. Et là, on n'est pas dans l'histoire de France. On
non.
Est,
non, mais là, c'est...
Dans la société, l'actu.
Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est un travail journalistique? Moi, je pense pas, parce que je suis pas journaliste. Mais oui, il y a eu un... Ça correspond, les porteurs d'eau, à une passion déjà pour le cyclisme très très ancienne, voire de toute ma vie. Et puis j'avais commencé à bosser sur le dopage en fait pour Carmen et Travis, parce que dans Carmen et Travis il y avait des prospectives sur le dopage génétique, etc. Et puis ça m'a commencé à bien m'intéresser ces histoires-là. Ça correspondait aussi aux époques où il y a eu les grands scandales du dopage, donc il y a une petite vingtaine d'années dans le peloton. Et puis voilà, et j'ai l'histoire des porteurs d'eau, elle est née il y a très très longtemps en fait. Elle a mis du temps à se mettre en place, mais j'avais vraiment envie de toute façon d'évoluer dans mon écriture et d'aller vers un roman graphique, quelque chose d'assez réel, d'assez ancré dans le réel. Donc voilà, c'est un mélange un peu de tout ça. Mais j'ai rencontré beaucoup de monde. Après, avec des vrais choix, par contre, d'enquête. C'est-à-dire que, par exemple, pour les porteurs d'eau, je n'ai pas du tout cherché à rencontrer des sportifs ex-dopés ou dopés, ça m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était de discuter avec des médecins, avec des enseignants, en leur demandant, mais qu'est-ce que tu... Le dopage, on sait parfaitement que ça existe, on sait parfaitement que c'est un fléau, on sait parfaitement qu'il y a énormément de sportifs qui sont dopés, il y en a qui ne le sont pas aussi, hein, mais il y a énormément de sportifs dopés. Donc voilà, essayer de prouver que le dopage existe ou n'existe pas, moi ça m'intéresse pas. Hein. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment un politique... un ministre des sports, comment un enseignant dans le sport, comment lui parle à des jeunes de ce problème-là, et puis voilà, bon, et ça donne une comédie.
Et les implications finalement au quotidien, au-delà du sport, un petit peu, je dirais, les à côté du dopage, c'est un peu ça dont ça parle les porteurs d'eau. C'est
du,
vrai
du
que...
coup, on a peut-être squeezé un peu, et peut-être on peut parler d'actualité dès maintenant.
Vous avez une question
Oui, mais alors du coup, je ne sais pas si ça va. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement quand tu parles de faire réunir Jules Verne ou Victor Hugo, tout ça, et je trouve ça très intéressant. Je trouve que d'ailleurs il faudrait qu'on parle de ça aux jeunes qui sont au lycée ou au caisse, parce que c'est ce qu'on leur demande, de faire des interactions entre l'histoire, la littérature, et je trouve que dans les albums que tu proposes ça ouvre cette possibilité là, donc ça donne une ouverture d'esprit qui fait que toutes les choses ont un lien, peuvent se raccrocher et ça rétablit des choses qui sont beaucoup plus claires. Et je pense que les jeunes devraient vraiment s'intéresser à ça, parce que même si on souhaiterait qu'ils le fassent, je trouve que ça manque au niveau de l'éducation nationale, ce genre de choses-là. De créer les liens remettre... Exactement. Et pareil pour les porteurs d'eau, du coup, parce que au-delà, alors c'est pas que du cyclisme justement, c'est pas que du dopage, c'est toujours situé dans un contexte. Et ce contexte-là, il est riche parce que ça nous donne des points d'information qu'on ne connaissait pas forcément et qui font partie du passé ou des choses comme ça. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans ton travail. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant dans ton travail. Et j'avais une question concernant le fait que tu fasses énormément de scénarii. Quand tu es à l'initiative d'un scénario, c'est toi qui cherches le dessinateur, ou est-ce que c'est les dessinateurs qui vont chercher ta particularité, parce que chaque scénariste a sa façon d'écrire. Comment ça se passe exactement?
Il n'y a pas de règle, tout existe en fait. Il m'est arrivé que des dessinateurs m'appellent pour savoir s'il y a une collaboration possible ensemble. C'était le cas avec Philippe Berthet par exemple, avec qui j'ai fait Nico. Par moment, c'est un éditeur qui vient vous chercher, par exemple, pour 13 Mystery, évidemment, c'est pas moi qui ai appelé Vandam,
on lui disait,
j'ai envie d'écrire un 13 Mystery. Non, les éditions d'Argo et Jean Vandam sont venus me chercher, m'ont proposé un dessinateur pour le faire.
Dans ces cas-là, tu considères comme un peu comme consécration, ou comme une forme de reconnaissance professionnelle.
Le 13 Mystery, c'est comme avoir un prix Angoulême, pour moi, c'est l'équivalent. Vu que j'aurais jamais de prix Angoulême, j'ai eu 13 Mystery.
Pourquoi tu dis
attends, t'es passé à l'anthropone maintenant, les choses ont peut-être changé.
Non, mais je dis ça sans aucune je fais pas une bande dessinée qui est classiquement primée lors des grands festivals comme Angoulême, mais j'ai eu des prix ailleurs, et il arrive aussi que moi je propose à des dessinateurs, je leur demande. Alors aujourd'hui c'est même ça a une sacrée évolution, c'est que le marché, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais le monde de la bande dessinée étant dans une production, on va dire, très dense, les grands dessinateurs réalistes étant très très difficiles à coincer, aujourd'hui on prend rendez-vous pour 2-3 ans.
Et justement, quel serait, si tu devais faire une collab, un dessinateur avec lequel tu Tu désires mort ou vraiment
vivant. Mort ou vivant.
Bah, les deux, choisis. Mort et
vivant. Un mort et un vivant.
Mort, Hugo Pratt, sans hésitation. Ouais. Sans hésitation. Mon dessinateur préféré, c'est Maurice, mais je serais incapable d'écrire un scénario pour Maurice. D'accord. Parce qu'il faut avoir l'humour de Goscinny. Ouais. C'est, voilà, c'est Maurice, j'aurais pas su quoi en faire. Hugo Pratt, je pense que j'aurais su quoi en faire. J'aurais proposé quelque chose. Ça aurait été moins bien que ce qu'il faisait tout seul, mais ça aurait tenu la route. Voilà. Puis actuellement, c'est difficile. Il y a plein de gens. J'aime beaucoup le trait de Mathieu Bonhomme, par exemple. En ce moment, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs dessinateurs de ma génération. Claire Wendling, très probablement, qui est vraiment au-dessus du lot pour moi. Voilà. Demain, ça serait peut-être une autre réponse parce que on évolue aussi. Moi, mes dessinateurs préférés sont pas forcément les dessinateurs dans le genre dans lequel je travaille. C'est-à-dire que moi, je suis un fan de Reiser, par exemple, et je suis tout à fait incapable de faire une histoire à la Reiser. Je sais pas le faire. C'est peut-être ça qui m'épate, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais j'adore Reiser, j'adore Franquin. Mais mon chouchou, c'est quand même Maurice. Je pense que Maurice est le plus grand dessinateur franco-belge, en fait. Mm. Voilà. C'est le plus grand. Parce que, du point de vue du style, tout est parfait. Les mains de Maurice, c'est une merveille. Tandis que les mains de Franquin, c'est pas toujours une merveille. Voilà, pour moi. Voilà. Il y a des petits, ça se joue à des petits détails. Il y a plein de dessinateurs qui vont me dire, je connais rien, Duval. Mais voilà. J'adore Maurice. Les chevaux de Maurice.
Après, je pense que c'est
une des choses les plus expressives qui a été données par la BD franco-belge. Le Jolly Jumper, c'est Joe Dalton. Joe Dalton, c'est encore autre chose. C'est la création pure de Maurice en dessin et de Goscinny. C'est-à-dire que Joe Dalton, c'est vraiment le personnage, un personnage de Goscinny. Et pour moi, Joe Dalton, c'est le plus grand personnage de la BD franco-belge.
Et justement, Lucky Luke à Paris, t'en penses quoi ?
Lucky Luke à Paris, c'est quoi ça ? Je ne sais pas.
Ah ben là, c'est les dernières qui vont sortir. Il sort des États-Unis.
Non, ça va sortir, oui.
Ah oui, alors non, ça m'est très clair. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais moi, j'ai arrêté vraiment, honnêtement, j'ai arrêté à Goscinny, les Astérix et puis les Lucky Luke. Je suis passé à autre chose parce que c'est pas ne pas aimer les gens qu'on poursuivit. Moi, je trouve que c'est très bien que Astérix soit. Et continuer avec Uderzo, c'est pas le problème, mais les livres ne m'ont pas intéressé, en fait, pas trop.
Oui, non, c'est pas merde.
Au niveau de l'histoire, donc aller chercher, mais au niveau de l'histoire, est-ce que, hormis le cas d'une adaptation, l'idée vient toujours de toi, ou certains dessinateurs aussi, est-ce qu'il arrive aussi que certains dessinateurs éventuellement aient un point de départ et viennent te voir pour.
Ça m'est jamais vraiment arrivé, ça. Ça m'est jamais
toujours d'une histoire.
Ouais, en général, parce que j'aime bien réfléchir au dessin des gens. C'est-à-dire que ce qu'on avait fait avec Berthet, par exemple, c'est qu'il m'avait dit voilà, bon, j'ai repéré ton boulot, on m'a conseillé de t'appeler. Enfin voilà, il avait consulté plusieurs personnes, j'étais dans sa liste. Et puis je lui ai dit bah écoute, je vais réfléchir à ton trait en fait. Mmh. Ce qu'on peut faire avec ton trait.
Oui, parce qu'effectivement, ça peut conditionner certainement.
Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai un projet et que je cherche un dessinateur, voilà, je commence rarement à découper si je ne sais pas qui va dessiner, par exemple.
D'accord.
Je n'ai pas dans mon coffre-fort des scénarios écrits totalement qui n'ont pas de dessinateur.
D'accord.
J'ai des synopsis détaillés, voire des séquenciers qui n'ont pas encore trouvé ni ou éditeur ou dessinateur, ou les deux. Donc qui sont au repos, que je retoucherai, ou qui sont pas encore parce que j'ai pas le temps de les monter.
Hein ?
Mais il y a rien, je n'ai aucun script découpé complètement. Ça m'est jamais arrivé. On a des jours J avec Jean-Pierre. On a écrit quelques jours J pour en avoir d'avance. Ça on l'a fait, mais à deux.
Et pas pour prolonger la question de Darnaud. Ça arrive qu'un dessinateur te fasse évoluer le scénario parce qu'il a un trait particulier ou il a une vision particulière ou est-ce que tu as une vision assez rigide au départ en disant voilà, ça c'est ça la commande et on sort pas du cadre.
Alors ça c'est une question qui mérite 2 heures d'émission.
Non, on les a hein,
en fait
pardon Freddy
il a foot la question c'est la collaboration, la bande dessinée. Quand on est un scénariste, un dessinateur, c'est une collaboration. Voilà. Donc, dans une collaboration, ça ne peut pas être complètement chacun dans sa pièce. Ou alors, c'est qu'on a des intérêts, puis on est dans la commande ou dans quelque chose. Voilà. Donc, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Même si on pourrait le faire, hein. Je peux le faire, mais ça m'est arrivé. Non, on, évidemment qu'un scénario, c'est pour ça que je n'aime pas tout découper à l'avance. Quand on donne une première séquence, par moment une solution visuelle proposée par le dessinateur va donner des idées pour la séquence suivante, permet de rebondir. Ça m'est arrivé dans des BD, dans des Carmen, dans des Travis, dans des Hauteville House, de voir ce que donnait un matériel, par exemple, dire bah non, ça on va plutôt s'en resservir, et donc ça forcément que ça modifie l'histoire. Ce que je ne modifie jamais, c'est le sens de l'histoire, le fond de l'histoire.
Mmh. Oui, c'est ça. Donc t'as le fond de l'histoire. Mais alors quand tu parles de séquence, c'est écrit, mais ça fonctionne comment? Comme une pièce de théâtre, comme des dialogues,
un storyboard,
c'est quoi? Ça représente quoi?
Bah, c'est case par case, case 1, enfin, par page par page.
Donc,
case par
c'est
case.
Déjà, oui, d'accord.
Ça, c'est le découpage. Sinon, le séquencier, c'est, un résumé de chaque séquence du livre. Donc, il y a dans un bouquin.
Dans un style indirect.
Oui.
D'accord. Oui. Et donc, quand tu travailles avec le dessinateur, ça peut devenir du style direct,
Le dessinateur, je lui décris le contenu de la case.
D'accord, ok. Non, parce que c'est quand même vachement intéressant comme boulot, ça. Ça demande des heures et des heures de réflexion.
C'est un travail à plein temps, madame.
Oui.
Et on fait rien à côté.
Non,
hein.
Mais le ça, mot doit être juste.
Mais sinon, comme vrai travail, tu peux le faire quoi un jour?
Le travail lexical, ce que je veux dire, c'est que ça doit être très concis, très juste.
Alors, je vais faire une...
Puisque vous êtes limité au niveau d'une... Enfin, si vous voulez être
efficace...
Ma métaphore
habituelle.
Je sais pas si je suis claire, mais...
Le dialogue, évidemment, c'est la partie stylistique.
Ouais.
Donc là, il faut du style. Hein, mm-hmm. D'accord. C'est là que le voilà. Et la dyscalie, si on peut l'appeler comme ça,
ouais.
c'est pour moi, j'appelle ça la feuille Ikea, justement, on en parlait tout à l'heure, ouais. avec le bricolage. Il faut que ça soit dans un style... complètement assez neutre et très 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 direct, très descriptif,
ouais.
pour qu'il n'y ait pas de confusion. On ne fait pas du tout de littérature dans le descriptif des cases.
Ça soit pas interprétable,
c'est une indication de mise en scène, et surtout un contenu. Et c'est ça, quand pour un scénariste, ce qu'il faut apprendre en premier, c'est que une case, il y a un sujet et un seul. S'il commence à y avoir deux sujets dans une case, tu perds la moitié des lecteurs en route.
Ouais. D'accord.
Et donc, sinon, c'est quoi ton deal avec Ikea pour placement produit?
Alors, les boulettes.
oui, Ludo. Non, Arnaud, vas-y.
De ce point de vue-là, le boulot de scénariste BD tel que tu le décris, par rapport à un scénariste de cinéma, j'ai l'impression que tu vas un cran plus loin,
ouais,
t'es un peu dans la réalisation.
J'ai travaillé un petit peu, il y a longtemps, il y a 20 ans, j'ai travaillé dans le dessin animé, en fait. J'ai fait du script de dessin animé pour Canal, des productions de Canal ou de M6, on n'a pas le droit de placement de produits.
Si, si, on s'en fout.
Il faut dire 3.
Non, podcast, on s'en fout.
J'aurais dû dire Bein, comme ça, il m'a envoyé un abonnement gratuit pour avoir les matchs, parce que bon, là, j'ai oublié de le prendre. Bon, bref. Et donc, quand j'ai travaillé dans l'audiovisuel, au début, ça m'avait fait super bizarre, parce que quand j'ai rendu mon premier scénario, les premiers test de scénario, ouais. le directeur d'écriture me dit, oh là là, mais t'en mets beaucoup trop.
Elle est trop loin.
Beaucoup trop. Ça va beaucoup trop loin. Aucune indication de cadrage, aucune indication de plan, même pas le mouvement d'appareil, parce que moi, j'ai chouette, j'ai le mouvement, je vais pouvoir l'indiquer. Rien du tout. Rien du tout.
Et c'est pour ça, c'est vrai que ce que tu décris est à la jonction des deux, quoi, d'un travail de scénariste et de metteur en scène.
Ouais. De toute façon, la mise en scène, on l'a fait à deux. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. On a un document que dans notre jargon qu'on appelle le storyboard, qui est un croquis de la planche. Ouais. Donc le storyboard, pour le dessinateur, c'est une grosse journée de travail. Sachant qu'après, la planche finale, il va y passer entre 4 et 6 jours. D'accord. Mais le storyboard, c'est vraiment... Moi, je valide ça. Quand je travaille avec quelqu'un, je veux valider le storyboard. Ouais. Je ne vais pas valider après le dessin. C'est comme si le dessinateur venait valider mes dialogues. Mmh. On peut se dire des choses, mais voilà.
Ouais. À ce propos, sur des albums de commandes par rapport à des productions personnelles, est-ce que tu dois rentrer dans les fourches codines d'un cahier des charges?
Par exemple, un 13 Mystery,
exactement.
Tu dois être forcément plus contraint que quand tu pars en 93 sur un Carmen.
Il y a une Bible ou quelque chose comme ça.
Et tu parlais de validation tout à l'heure. On parlait tout à l'heure de
une question à la fois.
C'était juste pour finir.
Lui serait très 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 mauvais pour...
C'était pour finir ma question, en fait.
Ouais, mais j'ai bien compris.
C'est bon, c'est bon.
Par rapport, en fait, à du
travail... Il peut y répondre tout de suite, même.
De dessin animé ou de série télé, en fait.
Alors, la série télé, là, c'est vraiment... Il y a même un mot, ça s'appelle la Bible. Hein. On reçoit une Bible, il faut rester dedans. Voilà, on est... Bon, c'est très codifié. Voilà. On a la Bible, puis on se débrouille. On nous demande un travail, finalement, de technicien. Ça n'empêche pas de glisser des petites choses personnelles. Et puis, quand on travaille avec un bon directeur d'écriture, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Grimont, qui est pas forcément, son nom est pas forcément connu, mais c'est une personne qui a fondé le département anime de la Gaumont, donc qui avait fait les Astérix il y a 30 ans, qui a travaillé avec Pichat sur voilà, et qui a beaucoup travaillé pour Canal, voilà. Bon, bah, on avait développé une belle amitié, et donc j'avais des choses assez personnelles que j'arrivais à passer et qui défendaient auprès des chaînes. Bon, un 13 Mystery, alors c'est très surprenant. J'en vais en âme à partir du moment où l'idée le séduisait. Il nous a fait, je dis nous parce que je pense que tout le monde a été logé à la même enseigne. Alors il y a des scénaristes avec qui ça s'est plus ou moins bien passé. Enfin, j'ai pas entendu parler de conflit dans ces 12 collaborations. Il nous a fait une confiance mais absolue.
C'est-à-dire que c'est quand même
moi j'ai appelé Jean un jour, donc j'avais été en contact avec
qui, Jean un jour
avec les oui mais qui
il m'a raccroché par Dargo. C'est qui toi, je te connais pas.
Dargo m'avait dit bah appelle-le puisque ton t'as... Bon, voilà, j'ai exposé mon idée, il a rebondi dessus très très vite, et puis après il m'a dit bah voilà, tu te débrouilles avec ça, et puis et il était là vraiment pour vérifier que par rapport à son univers, il n'y avait pas de faute de raccord. Et d'ailleurs, moi j'en ai fait une énorme, on était bien embêtés. Enfin, j'en ai fait une énorme. C'est-à-dire que j'avais travaillé, vu que je remontais le complot, l'histoire du complot, là-dessus, il m'a dit le complot, moi j'ai jamais réfléchi à comment il avait été monté. Donc tu te débrouilles.
Oui.
Et quand je lui ai expliqué, et puis faire ça, il m'a dit, c'est super, allez, hop, on y va. Et par contre, je lui ai dit, donc j'ai aussi travaillé sur le nom, j'adore le nom du premier, le jour du soleil noir.
Oui.
Voilà. Et donc moi, j'avais bossé énormément là-dessus en doc, et je m'étais rendu compte que le jour du soleil noir, c'était un truc nazi.
D'accord.
En fait, c'était une opération nazie, enfin j'étais remonté là-dessus, et donc j'explique ça à Van Damme qui m'écoute, et qui visiblement, lui, je ne savais pas. Il dit mais alors là c'est super, mais on peut pas, parce que regarde, c'est là que tu vois qu'il a tout son univers dans la tête.
La Bible
dit regarde le tome 2 ou le tome 3, je sais plus, il y a un journaliste qui dit, on le voit, c'est lui qui baptise l'assassinat du président le jour du soleil noir, c'est une invention de journaliste. Donc on peut pas le faire. On peut pas le faire, c'est par accord. Voilà fin d'histoire, quoi. Mais Jean dans les 13 mysteries, il était là pour ça, il était là pour bien vérifier,
garder la cohérence
par moment, des petites réflexions sur les dialogues, des choses comme ça, mais il a vraiment fait aux gens une confiance absolue. On a fait ce qu'on a voulu, hein, vraiment.
Il intervenait qu'à posteriori, finalement, il n'y avait pas de.
Moi, je lui envoyais par paquet de 10. En plus, il est très très pro, donc tu envoies tes pages le vendredi soir, histoire de lui pourrir le week-end, tu vois, et le mardi matin, il te répond, quoi.
Ouais,
c'est chouette.
Ou alors il avait compris que ça se passait en Asie.
I want to break free.
Là, je dis Messire Freddy.
Tu pourrais me faire un t-shirt, ça, Freddy.
Moi, j'aurais une question.
Oui, Starlet. Didouille, pardon.
Peut-être très conne.
Tu vois, je y vois une allusion quelconque.
Reveux-tu
pas sur toi.
Reveux-tu un petit verre de sang avec ma femme,
c'est bon.
Je sais pas si elle est judicieuse ou pas, mais je la pose quand même.
Tu dors avec moi.
Je me suis toujours demandé, c'est le dessinateur qui écrit dans les bulles?
Non, c'est le lettreur.
C'est le
lettreur.
Alors le lettreur.
Enfin, il y a des dessinateurs le font. Hein.
Ouais.
La vieille école, ils tiraient leur portée, ils écrivaient à la main. Aujourd'hui, il y a très 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 peu de dessinateurs qui font. Philippe Berthet écrit encore ses bulles. Vatine aussi, à ma connaissance, même s'il est peut-être passé en informatique, mais quand j'ai connu Vatine à ses débuts, il faisait les lettrages à la main, très joli lettrage d'ailleurs.
Oui, parce que moi je suis vachement sensible à ça, à l'écriture dans les bulles.
Mais alors maintenant c'est très informatisé.
C'est informatisé.
Ça se voit pas que c'est informatisé.
Bah non.
S'en est.
Didouille boit ses bulles elle-même.
J'adore les bulles, ça. C'est
j'adore
un truc.
Les bulles.
Des fois elle lit du texte dans ses bulles.
Non, mais
ça c'est quand au bout de quelques
heures. Fred, il a un très bon vionnier.
Ouais. Il était bon. Hein.
Ah ouais.
Ah ouais. Bon, puis avec la chaleur qu'il fallait et tout.
Attends, on était trop bien.
Et du coup, on en parlait un petit peu l'autre jour en off, on s'était croisés.
Oui.
Je te disais, tu nous avais envoyé, on a eu la chance d'avoir eu les porteurs d'eau en avant-première, et de temps en temps, tu as dans tes phylactères du texte qui dépasse, etc. Et je t'avais demandé à l'époque, quand c'est dans ces cas-là, comment fait-on ? Est-ce qu'on redimensionne la taille du texte ? Est-ce qu'on supprime un peu du texte ? Est-ce qu'on reforme ? Quelle est la limite en fait par rapport à ça ? Est-ce que le dessinateur doit reprendre pour que tout rentre ? Quel est le... Ça, c'est des choses un peu, peut-être un peu techniques, mais c'est vrai qu'on se pose pas la question quand on est juste lecteur.
Maintenant, c'est vrai que quand le dessinateur fait son lettrage à la main, comme Philippe le fait, quand tu lui demandes une modif
importante de texte. Oui. Il l'a fait, chaud. Mais il est grognon. Hein, mais t'es arrivé. Il faut pas le faire trop quand même parce que voilà. Et bon, par contre, il y a non. Moi, j'ai aucune. J'adore les bulles manuscrites comme ça. C'est tellement beau. Puis ça faisait partie du graphisme d'un dessinateur. Mmh, oui. Le lettrage de Moebius, c'est le lettrage de Moebius. Le lettrage, voilà. Mais pour égoïstement, pour nous les scénaristes, cette informatisation du dialogue, donc de la bulle qu'on peut redimensionner comme on veut en fait. Mmh. C'est formidable.
Oui.
Parce que ça permet jusqu'au dernier BAT, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous valide 2, c'est le PDF qui t'arrive la veille du départ chez l'imprimeur.
D'accord.
Hein, donc, tu vois, j'en ai un là, à lire ce week-end pour mardi. Jusqu'à ce moment-là, on peut modifier un texte, on peut revenir dessus, on peut même... réécrire tout le bouquin dans le week-end et puis enfin là on ferait le lettreur dirait t'es gentil mais
tu as un collègue dans ton dos qui fait la moue
mais on peut théoriquement c'est possible une semaine on va dire
et la ponctuation elle est super importante aussi tu lis pas tu déjà quand tu lis
on a
dans
des correcteurs professionnels
d'accord
Alors moi la ponctuation j'ai appris ça je j'en ai pas une maîtrise parfaite. Mais je sais ponctuer les virgules, tout ça. J'ai appris il y a 20 ans, en démarrant ce métier, en fait, à discuter avec des gens qui étaient très, pointus, justement, en orthographe. Et puis voilà. Mais sinon, non, on a des correcteurs professionnels qui font des propositions.
Tu lis pas de la même façon selon la ponctuation, moi, je trouve.
Ah bah oui, la ponctuation.
Ça joue énormément dans la façon d'imaginer les choses.
Le rythme aussi.
Bah, donne des phrases. Puis il y a aussi des ponctuations obligatoires. Sinon, ça change le sens.
Et d'ailleurs, tu étais plutôt un auteur, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, plutôt verbeux dans tes bulles? Ou est-ce que t'es plutôt ça se limite au dialogue et
moi je suis un peu école Van Damme.
Ouais.
Je pense qu'il faut en retirer le plus possible.
Less is more.
Ouais.
Comme disent les
autres. Ouais. Mmh. Ouais. Alors après certains je collabore aussi avec Jean-Pierre Pecot qui lui aime bien vraiment beaucoup travailler avoir des dialogues très informatifs, très très travaillés. Mmh. Alors c'est pas que les miens le sont pas, c'est que voilà, c'est une autre école en fait. Alors donc aujourd'hui on arrive à mixer les deux, mais pour moi moins il y a de dialogue mieux on se porte. C'est à dire que il faut vraiment privilégier le visuel, c'est quand même la BD c'est quand même quelque chose de visuel, donc il faut le dialogue il doit être là pour caractériser les personnages et non pas pour
apporter ce qui se passe, du complément quoi en fait. Oui Ludo.
Moi, sur le tout ce qui est les scénarios donc que tu peux fournir, on parlait tout à l'heure de 130 albums au compteur. Tu as une méthode particulière pour j'ai craché. Quand j'ai craché, c'est pas péjoratif, hein, mais pour cracher du sujet, c'est-à-dire en fait avoir l'imagination.
Non, j'ai une méthode de travail qui passe par la concentration. En fait, c'est, je pense que si tu veux dans la création, la chose la plus importante, outre l'imagination évidemment, on a et la technique, mais une fois que ces deux problèmes-là sont évacués, que tu as à peu près une imagination qui tient, et puis une technique que tu améliores à chaque bouquin, chaque jour, le plus important, c'est la concentration. C'est-à-dire que si on n'est pas concentré, on ne peut pas travailler. Et donc,
c'est comme nous, alors,
mais vraiment. Mais vraiment, voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui produisent peu parce qu'ils mettent une semaine à se concentrer pour écrire une planche, ou pour la dessiner.
Mais
moi je mets une heure.
Mais concentration pour toi, c'est comment tu l'as créé ta concentration?
Alors,
tu mets en concentration.
C'est quoi une journée de scénariste?
Une journée de scénariste de Duval.
Bien sûr.
La journée idéale, c'est footing le matin, douche, répondre au courrier, penser au travail, manger un truc, et puis à 13h je m'y mets jusqu'à 19h, et là non-stop sur l'ordi.
D'accord.
Voilà. En musique. Tu te mets en mode tunnel, musique, etc. Ouais. Et tu te mets dans ta bulle, quoi.
Ouais.
Mais est-ce que tu as des.
Joli. Tu te mets dans ta bulle.
Tu sais, pour développer une histoire, pour développer une intrigue, développer des enjeux, etc. Est-ce que tu as des. Entre guillemets, encore une fois, sans que ce soit péjoratif, des trucs, des formules, des recettes.
Alors, ça, c'est les vieux trucs de Charlier, ça. C'est ce qu'on appelle les fils. Moi, j'ai pas ça. Non, j'ai. Évidemment, je pense qu'on a.
Est-ce que tu sais où tu vas ou pas?
Oui, c'est où je vais. Je sais où je vais, mais j'ai pas de modèle. Il y a des scénaristes qui font ça, qui ont des modèles de
construction.
Moi, j'ai jamais utilisé ça. Je sais pas. Le scénario, c'est pas un gâteau, quoi. On fait pas
une recette.
C'est pour ça que je me demandais.
Donc, non, moi, je réfléchis. Par contre, tout le temps, c'est au personnage. en fait. Et après, je préfère avoir une intrigue un peu bancale ou un truc qui se rattrape un peu par un dérapage contrôlé qu'un truc super huilé et où on se dit ouais, bah c'est là, je l'ai vu il y a trois jours, je vais la relire dans quatre. Bon voilà, c'est des choix. Et tout en étant mainstream, c'est-à-dire que je respecte des codes. Il faut, moi, je fais du grand public, hein, donc je raconte pas des enjeux, voilà. Mais oui, se garder une liberté. J'adore réfléchir. Hauteville House, c'est la pire. Hein. C'est là où je fais le plus n'importe quoi, en fait. Et donc je m'interroge sur la situation des personnages à la fin du livre, où ils en sont au début, et puis après le chemin, bah c'est un peu voilà. J'aime bien improviser, voilà. D'autres bouquins, c'est un peu plus difficile. Carmen, Travis, c'est un peu plus balisé parce que c'est de la science-fiction. Oui. Faut, voilà. Non, puis chaque livre, c'est aussi ça qui permet de pas se lasser, c'est de varier les techniques. Ouais. Les porteurs d'eau, je m'y suis mis parce que j'avais ce besoin de me frotter à des récits en one-shot et de 130 pages. Parce que c'est. Enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais je pense que si tu veux, pour les gens qui l'ont lu, il y a moi la séquence que je trouve assez jolie parce que j'ai beaucoup remonté le courant autour de celle-là, c'est quand il écoute le disque de Bowie dans le grenier avec bon, c'est, ouais, là ça rappelle son père, etc. Voilà. Donc il y a une certaine émotion qui va se développer à ce moment-là et je pense que ça en dehors d'un 130 pages tu peux pas le faire parce que au moment où c'est le bouquin, si ça avait été une BD normale, c'était le début du tome 3. Or le début du tome 3, si tu mets cette planche-là, les gens vont la trouver sympa mais ne seront pas immergés à moins que les gens aient tout relu. Mais tu prends là, ça fait beaucoup de si déjà.
Oui, il faut que tu commences à penser dans la durée.
Ouais. Ouais. Et donc avoir des trucs un peu qui vont vers une certaine émotion, un certain voilà, je pense que le 130 pages est vachement bien parce que le lecteur est comme dans un roman, il est immergé, tu l'emmènes tout doucement et hop, paf, tu places.
Est-ce qu'on peut faire justement le parallèle entre un scénariste de film et un scénariste de série par rapport à ce que tu dis là où tu dois passer des émotions à un certain moment et puis que dans une série on peut permettre des choses qui dans un film passeraient complètement à côté ou tomberaient à plat et inversement des fois.
Absolument.
Ça s'approche ou pas?
Ça se rapproche. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les séries télé. Pas de problème. Je pense que même une grande partie de la création intéressante de ces dernières années, en tout cas de l'industrie américaine, est dans les séries télé. Il n'empêche que faut pas exagérer. On n'a pas encore eu en série télé Citizen Kane, on n'a pas encore eu L'avenue des chasseurs, on n'a pas encore eu Fellini Roma, on n'a pas encore eu ça, quoi. C'est parce que voilà, ce sont des œuvres one shot avec un vrai début, un vrai milieu, une vraie fin, un matériel cinématographique 70 mm, enfin c'est des focales, des non, voilà, la série télé, c'est génial, mais c'est autre chose, quoi. D'accord. On peut pas comparer, en fait.
D'accord.
Mais moi, je pense que l'œuvre écrite, après, on peut considérer The Wire comme un film, à chaque fois de 16 heures. Et ça, c'est super intéressant, mais voilà.
Mais ça reste un séquençage différent, et du coup, avec des temps forts et des temps qui sont gérés sur une durée.
Oui.
Ok. Et donc, pour revenir, justement, Freddy voulait revenir sur les porteurs d'eau, puisque c'est ton actualité. C'est là, on a parlé un peu de ton contexte, ton travail, etc. Mais l'actu qui nous amène là, c'est la sortie depuis un mois, à peu près, c'est ça?
Un mois, tout à fait.
Des porteurs d'eau, donc un livre qui traite justement du dopage. Enfin, ça parle du cyclisme, du dopage, etc. Mais c'est aussi un peu un thriller, mais un road movie. Ça pose plein de... Il y a plusieurs styles. Comment t'es venu cette idée? Justement, t'en as parlé un petit peu, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu nous évoquais tout à l'heure, c'est plus un sujet presque social, sociétal. Et comment t'es venu à cette chose-là au-delà de l'aspect artistique
Par plein de bouts, il y avait cette envie de parler du dopage, de faire un vrai truc sur le dopage. Donc dans le vélo, parce que c'est un sport que je connais bien et que j'aime bien et que j'associe à vraiment la culture populaire. Le foot aussi, mais le foot a pris d'autres fonctions sociales dans le monde. On est dans un phénomène, enfin on le voit bien en ce moment, où ça touche les stériles, le foot, en fait. Il y a quand même quelque chose qui va encore au-delà dans le foot. Le vélo, c'est un des rares sports où tout le monde est à peu près applaudi, qu'il soit belge, néerlandais ou français. Ça me choque, par exemple, quand des coureurs américains se font siffler, c'est un phénomène assez récent, et ça me choque, par exemple. Vraiment, c'est populaire. Non, c'est Lance. Mais Samson, il avait rangé la trompette. Voulez-vous un peu de vionnier?
Volontiers.
Bon, c'est pas lui Samson, c'est Neil Armstrong.
Je me souviens déjà de son nom. Ben oui, mais bon, qui avait dit qu'il était blanc comme neige et puis on a
surtout pas Louis Armstrong.
Oui, Freddy. Juste un mot sur le livre. Moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup le vélo, j'ai grandi avec cette culture-là et encore aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse
beaucoup. C'est pour ça qu'il a un scooter.
Pour autant,
Oui, tout à fait. Tout à fait, ça doit être ça. Enchaîne.
Vas-y, Frédéric, laisse pas démonter.
Pour autant, le thème du livre, ce n'est pas le vélo, non, à proprement parler.
On est bien d'accord.
Et ça, c'est pour le dire aux gens, pour éviter de faire fuir une catégorie de personnes qui pourraient ne pas l'acheter en se disant.
Plein de gens qui n'aiment pas le vélo m'ont dit c'est super.
Mais je suis assez d'accord avec ça. Et on est d'accord que le thème, c'est vraiment, ça tourne autour du dopage. Et je te disais tout à l'heure hors micro, que, non c'est pas toi que je disais, c'est à Georges, que le sujet me touchait particulièrement parce que j'avais un beau-père qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était coureur à un haut niveau amateur.
D'accord. Ouais.
Et moi j'ai connu les produits dans le bas du frigo.
Oui. Ça c'est intéressant ce que tu as.
Carrément.
Ça m'a touché vraiment ce que j'ai vu parce que c'est ce que j'ai vu moi à la maison il y a quelques années.
Voilà. Et ça, les témoignages sont multiples. C'est-à-dire que tu as les témoignages comme ça, qui sont vraiment personnels. Tu as les témoignages de potes qui font des marathons, qui disent, ou des 10 000, et qui disent amateurs, hein, avec 500 balles à l'arrivée, et qui disent tu vas après le départ, tu trouves des seringues dans les toilettes. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas, on l'invente pas, on fait pas, on n'est pas.
Oui,
dans,
c'est pas du ragot, c'est pas faire du ragot pour faire du
sensationnalisme au moment du Tour de France. Non, c'est une réalité. C'est un problème. Quand j'ai discuté avec un ancien ministre des Sports de la question, la discussion a très vite tourné au problème de santé publique. Et le problème de santé publique, finalement, beaucoup de gens me l'ont dit. Il concerne pas le sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il est entouré, il se dope avec des médecins autour de lui. Ouais. Alors c'est un tricheur. Et voilà. Moi, je suis pas là pour. Nous, on n'est pas là pour juger. Il y a des instances, hein. Mais quitte à parler du dopage et d'essayer d'être utile à quelque chose en parlant du dopage, il faut parler du dopage de monsieur tout le monde, le mec qui va prendre des produits pour épater le pote le dimanche matin, et ça c'est assez répandu malheureusement. Alors, ensuite dans le sport amateur, et ben oui malheureusement voilà.
Et ce qui est bien aussi dans ton livre, c'est qu'effectivement, ça se concentre pas uniquement sur le vélo, ça se porte aussi sur le côté humain, des implications que ça peut impliquer, effectivement, comme disait Freddy, mais aussi que faut pas se leurrer, c'est pas dans les pharmacies qu'on va se servir.
Non.
Donc forcément, on fait appel à des réseaux un peu particuliers, et que quand on met le doigt dans l'engrenage, il y a un moment, c'est une fuite en avant perpétuelle, et on sait plus s'en sortir. Au début, c'est juste pour un peu, on sent bien au début, c'est un peu des petits bras cassés, des petits caïds, des petits losers, etc., qui essayent effectivement d'épater la grippe. Puis se retrouve pris dans un truc qui les dépasse complètement et ils n'arrivent plus à s'en sortir.
Et qui a une autre dimension aussi du bouquin, c'est que c'est une ambiance un peu polar, sans être plombé.
Est-ce que je peux lire le pitch pour nos auditeurs? Donc Jérôme Pignon et Florian Cornu sont sur le point d'acheter des produits dopants lorsque la douane débarque, obligeant les deux jeunes espoirs du cyclisme à prendre la fuite, le coffre plein d'argent et de marchandises. Leur cabale va les mener de Dieppe jusqu'au Mont Ventoux. Une poursuite tragicomique durant laquelle le petit Pignon devra également affronter le fantôme de son père, coureur professionnel mort à 37 ans d'une embolie pulmonaire.
Bon, tout est dit, hein.
Ça m'a rappelé des souvenirs, mais mon père c'était un infarctus à 32 ans.
Voilà. Et ce ne sont pas des cas isolés, il y a énormément de gens, et beaucoup me suis beaucoup renseigné sur ce que devenaient les sportifs de haut niveau après leur carrière. Il y en a beaucoup qui vont en désintoxication parce qu'ils n'arrivent pas à gérer à la fois la production naturelle d'endorphines qui résulte de l'entraînement à haute dose et les produits dopants. Donc le mélange des deux mène à des dépressions très très graves et à des conduites addictives.
D'ailleurs, un de tes personnages est complètement détruit.
Le personnage du parrain est intéressant, je trouve, vraiment, de ce point de vue-là.
Mais en fait, bon, l'autre aspect des porteurs d'eau, si je peux me permettre un côté un peu plus métaphorique, je dirais, c'est ça parle même pas de sport en fait. Les porteurs d'eau, ça parle des perdants, c'est-à-dire que là on vit quand même depuis 15-20 ans dans une société où on explique que il y a que le vainqueur qui est important.
Qui compte,
et ça, moi en tant que personne, si tu veux, ça, enfin,
le deuxième,
je pense que
dans les
Carmen, dans les Trévis, j'en ai déjà pas mal parlé de ça, mais là je voulais faire un truc un peu concret. Je voulais dire que ça se passe sous François Hollande, clairement, c'est en 2015. Les porteurs d'eau, c'est ceux qui vont porter l'eau au premier de cordée. Les premiers de cordée, on nous saoule pas mal avec ça quand même là, depuis un moment.
Ça m'évoque quelque chose.
Mais... La Macronie, on est en Macronie.
La Macronie, elle est bien gentille. Mais...
on a mis une pièce dans la machine.
Non, mais pas plus que ça. Tu vois, moi, j'ai pas tellement envie de le détester, ce gars-là. Mais il faudra quand même qu'il arrête d'expliquer qu'il y a
la victoire qui est belle, ouais, quoi, parce que là, il est en train de démoraliser tout le monde. Parce que,
évidemment,
il veut une France qui gagne, mais une France qui gagne, c'est une France qui s'éperde.
Tout le monde peut pas être dans l'entrepôt, bien sûr. Exactement. On sait bien.
Je discutais encore avec Marine il y a pas très longtemps, elle était d'accord avec moi.
Si on doit refaire le match à chaque fois parce qu'on n'a pas gagné le truc comme il veut, pépère, bah, on va finir par faire quoi.
Oui, puis c'est une vision assez, enfin, bref, unilatérale.
Pas Pierre de Coubertin, il serait pas content, hein. Truc, quoi.
Chacun peut vivre, peut s'épanouir dans sa vie sans avoir forcément envie d'être le premier, le meilleur.
Voilà, ouais. C'est ça. Voilà, voilà. Et quant au sport, eh bien, est-ce que c'est la fonction du sport que d'être un spectacle télé? Ça aussi, c'est dit. Mmh. Oui. Parce que voilà, le dopage à haut niveau, là, par contre, c'est ça. C'est ne pas confondre non plus le spectacle. Donc, on en revient à Guy Debord et tous ces philosophes-là des années 60. Et puis ce qu'est réellement le sport, ce qui consiste à aller faire un coup de vélo, un coup de piscine, un coup avec un copain, une copine, n'importe, et puis de faire de l'endurance ou une pétanque ou qu'est-ce que je vous raconte, quoi. Et ça c'est marcher, discuter, profiter, enfin voilà, ça c'est le sport.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Et ça paraît complètement idiot de le rappeler, mais on se sent obligé de le faire. Ouais. Vous voyez dans quel monde on vit quand même. On est obligé de. Enfin, c'est une lapalissade, quoi. De dire aux gens, mais non, je t'assure, faire du vélo, c'est pas arriver le premier dans le club du dimanche matin, quoi.
C'est
juste faire une sortie.
Je suis le premier aussi, des fois, ouais, à le faire, mais à partager ses courses sur les réseaux sociaux. Il y a un espèce de côté, effectivement, de dire, tiens, regarde, j'ai couru tant de temps, et puis avoir cette espèce de regard des autres, en fait. Ouais, ça joue vachement, c'est ça. Hein,
ouais, l'avantage, c'est que
je cours
rarement les miennes. Hein,
moi, je cours pas vite et je cours très mal, donc je m'en rentre rarement.
Moi, je serais plus à mettre le nombre de verres que j'ai bu.
Ouais, bah là, t'es hors concours. Hein.
mais on disait qu'on n'était pas obligé d'être forcément le premier partout.
On va peut-être en ouvrir une, d'ailleurs.
Ça m'intéressait de savoir si t'as eu des retours du milieu sportif.
C'est un peu tôt, mais oui, il y a eu un moment assez intéressant la semaine dernière avec un responsable marketing d'un très très grand, je le citerai pas, d'un très très grand
laboratoire pharmaceutique,
très très grosse équipe française. Voilà.
Festine,
non,
mais il le dira pas.
Il est venu me voir à la dédicace chez Pierre Julien, la Funambule, et qui m'a dit que le bouquin était formidable et que son directeur du marketing partant en retraite, il en prenait un pour lui. Voilà. Et je lui ai demandé s'il y avait des trucs qui l'avaient choqué dans le livre. Il m'a dit non, tout va bien. Et d'ailleurs,
tout va bien, c'est mon quotidien.
Pas la mettre sympa. Ils sont un peu à la pointe de la lutte contre le dopage. Et puis voilà. Et la discussion est quand même assez vite venue sur cet amateurisme et le dopage. C'est pas qu'ils voulaient dédouaner le monsieur, les sportifs de haut niveau, mais vraiment les types qui se font une cure de PO, ça existe, et qui sont cadres à la Matmut, quoi. Il y en a forcément, statistiquement, et ça c'est grave, hein.
Est-ce que je peux apporter un petit bémol sur chose qui m'a un peu gêné? Alors pour le coup, ça ne concerne pas directement puisque c'est plutôt le dessin, mais on a deux protagonistes. Tu peux me rappeler leur âge?
Ils ont 18, 19 ans. 10, voilà. L'un a 17, l'autre 19.
Et jusqu'au bout, j'ai pas réussi à me mettre ça en tête.
C'est vrai parce qu'ils sont plus 30 ans. Ouais.
Ouais,
c'est
graphiquement. Leur représentation graphique.
Alors, on a beaucoup bossé avec David Chauvel, mon éditeur. On a beaucoup retravaillé les dialogues, justement, pour essayer de faire du faux jeune, parce que ça, c'était le piège. J'ai même fait relire à mes gamins qui m'ont dit non là papa c'est possible
ça s'est parlé
comme ça il y a 3 jours mais là non là c'est fini quoi
non, là papa tu me fous le seum là vraiment
là, c'est ça ouais.
Bon, là ça passait crème mais là non hein.
Donc j'ai essayé de styliser, c'était un boulot de chien vraiment, les dialogues ont été retravaillés pour j'ai fait lire à des gens qui m'ont fait des retours. Il y a eu deux trois retours sur là ce dialogue là non c'est trop, on voit trop que c'est
artificiel,
donc je les ai rebossés encore. Et c'est super dur à faire. Moi, je suis pas un dialoguiste virtuose. C'est la partie où je dois travailler le plus. Ma partie la plus facile pour moi, c'est le rythme, c'est le découpage.
Du coup,
un découpage, je te fais ça en courant, en fait. Non, mais c'est vrai. Ouais. Par contre, les dialogues, je dois beaucoup travailler. C'est moins facile pour moi.
Ça m'intéressait du coup de savoir. Si vous aviez eu le même.
J'ai le même retour que toi. Mais c'est vrai que ça m'a pas choqué. Mais c'est vrai qu'effectivement, on s'imagine pas forcément que c'est des jeunes.
Exactement,
Finalement, l'âge est peu important parce que. Enfin, moi, j'ai vite fait abstraction de l'âge parce que je me suis dit juste c'est des amateurs qui réussissent bien, mais je suis pas resté sur le. Ouais. Effectivement, le côté espoir du cyclisme, on l'oublie vite. Enfin, par rapport au dessin, qui nous fait vite oublier ça pour finalement se consacrer à des gens qui sont entre. deux statuts entre l'amateur et le professionnalisme, et je me suis plus concentré là-dessus.
Mais c'est pareil, je pense qu'au niveau du fond de l'histoire, ça n'a pas tellement d'importance. Non. Moi, c'était technique, parce qu'il fallait que ça soit un qui sache pas conduire. Mmh. Tu vois, c'est des trucs comme ça, ou qui vous échappent peut-être à la lecture, mais c'était vraiment dire, faut que ça soit clair qu'il peut pas prendre le relais au volant, des petites choses comme ça. Mmh. Et puis, ouais, voilà.
C'était juste un petit bémol, parce que pour le reste, c'est vraiment un livre formidable.
Ça t'a plu.
J'ai pris beaucoup de plaisir.
Ça me fait plaisir, surtout si t'as vraiment un témoignage comme ça aussi direct. C'est intéressant, mais combien de...
Ça m'a parlé et ça m'a touché.
Au moins, un juste retour.
Puis bon, il suffit de voir un petit peu les publications que tu relais ou qu'on peut entendre à droite à gauche pour entendre qu'il est quand même plutôt bien accueilli, très bien accueilli même.
On a une très bonne presse. Vendre un roman graphique aujourd'hui, c'est pas simple. Mmh. Je sais déjà qu'on n'aura pas une espèce de phénomène de société qui fait que t'en vends 300 000 comme ça, mais que ça sera pas non plus dans des ventes qui sont souvent celles des romans graphiques, c'est-à-dire moins de 1000 exemplaires. Bien sûr. Romans graphiques, on parle que de ceux qui marchent bien, mais à côté, pour un qui marche bien, combien Donc nous, on va être dans quelque chose qui s'approche de certaines de mes séries. Moi, ça me convient.
Toujours est-il que, pour revenir à la pub, l'intervention dans L'Œil du Tigre sur France Inter concernant les porteurs d'eau.
C'est pas une pub.
Non, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pas
si, Fred l'avait payé.
Ce que je veux dire, c'est que quand on connaît normalement le cadre de l'émission, pour venir à parler des porteurs d'eau et tout, je pense que ça peut aussi apporter des lecteurs et s'intéresser sur le sujet. En tout cas, moi perso, je vais le lire. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Bravo. Comment? Super.
Tu ne l'as pas pris.
Mais je l'avoue.
Pour combien de temps de travail, en fait, ça représente un livre comme les porteurs d'eau?
C'est 7 semaines, je pense. D'écriture.
D'écriture.
7 à 8 semaines.
D'accord.
Et après, au niveau du dessin et
des échanges,
2 ans.
Est-ce que tu parlais par rapport au nombre de ventes? J'essaie de me dire, tiens, effectivement...
Pour le dessinateur, c'est difficile. Hein. Toute façon, pour les dessinateurs, en ce moment, tout est difficile. À partir du moment où ils ont des contrats actuels, où tout l'argent est avancé sur les ventes à venir, c'est un métier qui est devenu quasiment impossible. Faut le dire clairement. Hein.
Est-ce que ton nom, c'est pour un éditeur, un nom qui rassure, un nom justement, on parle de vente là.
En roman graphique, pas du tout. Non, moi, quand je propose de la science-fiction, on me dit, asseyez-vous, monsieur Duval. Mais c'est tout. En science-fiction, oui, un petit peu. En roman graphique, pas du
et
tout.
Justement, mais est-ce que l'éditeur est pas ok pour partir sur cette voie un peu différente?
Non, là, parce c'était, que un tu... c'était un man demande. Voilà. J'ai dit à mon éditeur, j'ai fait beaucoup de science-fiction, maintenant je voudrais passer à autre chose et je vais avoir ma chance sur 2-3 projets. Voilà.
Mais dans l'absolu, il aurait pu refuser.
Ah oui.
Voilà, donc si tu te la donnes.
Avec Nicolas, on a essayé de placer un autre projet qu'on a monté un peu trop vite et qui ne trouve pas preneur pour l'instant. Ouais. Ah, c'est dur, hein. Les temps sont vraiment durs, hein.
Tout à l'heure,
Tagoteur en colère.
Et si, alors, t'as un éditeur, c'est con ce que j'ai posé comme question, mais c'est pas grave. T'as un éditeur attitré. Ouais, mais
comment?
Attitré. Aller chercher, si l'éditeur avec lequel t'as l'habitude de bosser t'aurait dit non, pas pour ce roman-là, ou pas pour ce que tu veux, tu pouvais aller démarcher un autre éditeur. Il n'y a pas une exclusivité voilà. Par rapport.
Les 20 premières années, on va dire les 15 premières années, j'ai quasiment exclusivement bossé avec Delcourt parce que j'ai trouvé mon compte, tout simplement. C'est un très bon éditeur qui m'a accompagné. On s'est accompagné dans une espèce de montée de la maison. Voilà, moi je suis parti de la petite dizaine d'auteurs historiques de la maison. Voilà. Et puis depuis 4-5 ans, je signe des choses ailleurs. Dargo, Glénat, Lincoln qui vient de paraître chez Glénat. J'ai un voire deux autres projets chez Glénat qui sont en cours de finalisation. Je travaille avec Dupuis, je travaille avec Dargo. Là maintenant, j'ai décidé d'aller plutôt voir les éditeurs en fonction du projet.
D'accord. Oui, c'est ça.
Honnêtement, un peu.
J'essaye en tout cas.
Moins bloqué, quoi. Alors, on a reçu un petit message sur notre répondeur.
Un message?
Ça sent le reproche d'il y a 5 ans, ça.
Non, je sais pas.
Salut l'Entrepode, c'est Starlette. C'était juste pour vous dire que moi, à la base, si j'étais pas venue, c'est parce que j'ai un enterrement d'une jeune fille. Et ce soir, c'est karaoké. Et du coup, je voulais me la péter un peu en karaoké, comme je chante dans un groupe, tout ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai la voix cassée. Alors, je voulais savoir s'il était encore temps de venir à l'émission parce que sinon je vais avoir l'air d'une quiche. Donc j'attends, vous pouvez m'appeler. J'espère que vous n'avez pas commencé et que et vous allez pouvoir venir. Allez, bisous.
Bisous.
Alors, je crois qu'il y a un autre message derrière. Il y a des gens qui sont fous. Hein. Je crois que c'est une autre personne qu'on connaît aussi.
Si jamais vous aviez commencé et que je pouvais pas venir, est-ce que vous pouvez demander à Nico qu'il me garde une part de quiche, s'il vous plaît. Merci, bisous.
Il y a plus de quiche, je crois. On est bien emmerdé. Bon, bah voilà. Starlet, vraiment.
C'est quoi cette voix?
Elle a fait un concert avec Ken Kiwi, hein, elle m'a dit,
c'est
je crois.
Elle est complètement défoncée,
elle chantait sans micro.
Je crois qu'elle a voulu se la jouer à l'Hellfest, un truc comme ça, je ne sais pas.
L'année prochaine, vous n'aurez pas besoin de la prendre dans la voiture, il y va en avion.
C'est clair.
C'est fou, ça, cette voix extraordinaire.
Avec Led Zeppelin.
Je vous propose de passer justement à une rubrique pour un peu ponctuer avant de finir avec Fred derrière. Une rubrique sur laquelle, enfin, qui est en deux parties, c'est ma rubrique. Je présente cette fois-ci deux podcasts et dont un qui va peut-être t'amener, enfin peut-être les deux d'ailleurs, mais à t'amener à rebondir sur ce que je présente.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Daco, daco, chabou, tadouti.
Et donc dans mes fonds de tiroir cette fois-ci, ce mois-ci, je retombe dans mes passions, dans mes sujets de prédilection, c'est-à-dire les podcasts. Hein. Mon activité professionnelle m'amène à avoir beaucoup de transports, donc j'écoute beaucoup de podcasts. Et là, les derniers podcasts que j'ai découverts, parce que j'ai découvert assez récemment, et puis j'ai eu le loisir de pouvoir tout écouter depuis peu. Le premier podcast s'appelle La Terre à boire. La Terre à boire, c'est un podcast qui parle de l'univers du vin, de l'œnologie, de tout ce monde. On en parle souvent ici, mais c'est vrai qu'on en parle en tant que boisson, etc. Mais on parle pas forcément toujours de la culture qui va avec, etc. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai découvert un univers que je connaissais pas. Je suis très inculte par rapport à tout ce qui est gastronomie. J'ai pas de culture par rapport à ça et j'aime bien entendre des gens en parler parce que ça attire ma curiosité, ça me donne envie de creuser. Ça fait pas de moi un expert, mais ça me donne envie de creuser. Et je trouve que La Terre à boire, ils sont vraiment parfaits par rapport à ça. C'est un podcast qui avait été conseillé par Rebecca Armstrong sur Twitter. Donc j'en profite pour passer un coucou à Rebecca qui nous quitte et qui s'en va vivre à Madrid. Et donc c'est un podcast œnophile. Et comme leur description le dit, c'est pour les amateurs de vin, les passionnés et tous les autres.
Mais pas que.
Et voilà, et tous les autres. C'est surtout les autres en fait. Moi, je m'inclus dans les autres en fait. C'est un podcast qui est constitué par en général 3-4 animateurs. Il y a un noyau dur qui sort de façon hebdomadaire. Alors moi, je suis toujours impressionné par ceux qui sortent des podcasts de façon hebdomadaire. Donc c'est principalement les noms que j'ai retenus. Alors excusez-moi s'il y en a d'autres que j'ai oublié, mais Romain, Patrice, Philippe et Grégor. Ils ont sorti leur première saison qui vient de se terminer là. Il y a 35 épisodes en une saison, plus des hors-série. C'est souvent enregistré dans un bar à vin qui s'appelle le Wine Therapy à Paris.
Déjà, j'aime bien le nom.
Bah oui, je trouve aussi. Ouais.
Bah, sympa.
Et ils ont un très bon son de manière générale. C'est très agréable à écouter sur le fond comme sur la forme en fait. C'est vraiment. Enfin, souvent je fais quand je le présente à Starlet, ça me fait un petit peu penser à On va déguster sur Inter.
Ah, c'est-à-dire dans l'émission du dimanche matin.
Dans le style un petit peu en termes de qualité de réalisation et de production, ça ressemble un petit peu à ça. Si vous voulez. Après sur le ton, c'est très différent, mais. Donc c'est des épisodes qui durent entre 30 et 40 minutes en général, donc ça reste assez assez facile à écouter. C'est pas des trucs où on s'embarque dans des gros tunnels d'écoute. Ce que j'aime beaucoup, moi déjà, c'est leur façon d'introduire leurs épisodes. C'est-à-dire que l'animateur principal, je crois que c'est Romain. Alors c'est pareil, je me trompe peut-être sur les noms parce que je confonds un petit peu les noms. Comme j'en ai écouté beaucoup d'un coup, j'ai un peu tendance à confondre un petit peu les différents intervenants. Je trouve qu'il y a une façon d'intervenir et de présenter. Et je vous propose d'écouter d'ailleurs l'intro du premier épisode, si ça vous convient. Oui, alors elle dure un petit peu de temps, mais je pense que c'est intéressant parce que ça donne vraiment l'ambiance et comment ils veulent présenter leur émission.
Nous avons presque tous au moins une histoire à raconter en rapport avec le vin. Prenez les amateurs, ils n'en finiront pas de vous expliquer les circonstances
dans lesquels ils ont ressenti leur première émotion œnologique. En général, et souvent, en goûtant pour la première fois un vieux Bordeaux, c'est mon cas en tout cas, les passionnés n'auront de cesse de vous faire visiter leur cave et goûter leurs pépites. Les indifférents, qui sans vraiment apprécier le vin, en savent juste assez pour choisir la bouteille qui permet de ne pas venir les mains vides à un dîner. Même ceux qui ne boivent jamais de vin pourront vous dire combien de fois ils ont dû expliquer leur bizarrerie et se justifier presque de ne pas s'extasier devant cette bouteille dont on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qu'elle contient.
Ça te parle aussi, Ludo.
Prenez mon grand-père. Il n'était pas un spécialiste, carrément, mais il avait plaisir à faire vieillir son vin et à le sortir aux grandes occasions. Grâce à lui, j'ai bu, à 20 ans, un vin de l'année de ma naissance. Oui, le vin est affaire de tous, car il est affaire de culture dans tous les sens du terme. Et je ne parle pas d'une culture franco-française, ni même européenne. Il fait partie de notre patrimoine commun, de l'humanité tout entière, qui fabrique du vin depuis des millénaires. D'ailleurs, même si la consommation a fortement décru, au cours du dernier siècle, et c'est par ailleurs une excellente chose, le statut du vin n'a cessé de s'élever. Beaucoup de vins médiocres ont progressé en qualité au cours du XXe siècle, mais ce qui se passe aujourd'hui est encore d'un autre ordre. Le vin est à la mode, il est cool, il est branché, il est frais, comme disent les plus jeunes. Les cours d'œnologie sont devenus un grand classique des anniversaires de trentenaires. Vos amis organisent des soirées dégustation, on ne compte plus les reconversions de cadres sup en œnologue, en sommelier et même en vigneron. Si vous voulez mon avis, le vin est tendance avant tout parce qu'il nous rapproche de la nature. Il est ancré dans le réel de la terre quand nous nous déconnectons de plus en plus en nous connectant au réseau mondial. Le vin nous ramène, il est notre trait d'union et cette merveilleuse coproduction de l'homme et de son environnement nous rassure sur l'existence même de l'harmonie. En ce bas monde, de la beauté, de la finesse, oui, il y a aussi de la beauté dans l'homme. La preuve, il fait du vin. Vous l'avez compris, dans cette émission, nous allons parler de vin, et c'est un grand voyage que je vous convie à travers les paysages et les saveurs, à travers les vignobles de France, et même au-delà des frontières. Chaque mois, nous poserons nos valises dans une région vinicole et nous y goûterons des vins. Nous raconterons sûrement quelques histoires et aurons régulièrement des invités pour nous accompagner. Ce premier épisode se nomme « D'Avignon à Montélimar, les vins du Mistral ». Bienvenue dans la Terre à Boire.
Voilà un petit peu comment ils se sont présentés dès le début, et c'est vrai que ça pose tout de suite l'ambiance. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose qui parle de la culture, du patrimoine, du terroir, plus que du vin en tant que je dirais qu'élément à déguster, etc. C'est plus ce qui rapproche entre guillemets les hommes. Enfin, il l'a un petit peu abordé. Et vraiment, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont cette approche assez d'ouverture. C'est-à-dire qu'on n'exclut pas, on n'est pas dans l'entre-soi, on n'est pas entre connaisseurs, etc., etc. Et donc, il y a souvent, à chaque émission, il y a cette espèce d'intro, un petit peu, qui dure environ 2 minutes. J'aurais pu vous en passer plein parce que je les trouve toutes assez, super bien écrites.
Elles sont très écoutes.
Elles donnent vachement envie d'aller écouter un peu ce qu'ils vont amener derrière. C'est vraiment le vrai rôle d'une intro. Et, donc ça parle de thèmes, c'est-à-dire qu'ils suivent un petit peu un parcours au sein de la France, mais pas que la France d'ailleurs. Ils font toute une thématique sur les vins du Beaujolais, les Côtes du Rhône, les vins corses, vins du Jura, le Champagne.
Bah oui, c'est pas la France.
Vins d'Alsace, mais aussi les vins italiens et les vins espagnols. Pour dire que justement, le chauvinisme français, un petit peu de se dire qu'on est, on se gargarisait à dire qu'on a les meilleurs vins, que nous on a tout inventé. Non, c'est de dire que le vin était inventé par les Romains et toutes ces choses-là. Remettre tout ça en perspective avec des historiens, avec des gens qui sont sur des terroirs. Et il y a souvent de la contextualisation par rapport à tout ça, au terroir, etc. Ils parlent aussi, ils ont une approche où ils ont quand même beaucoup d'invités qui sont des gens qui reviennent à des fonctionnements assez traditionnels avec la biodynamie, qui travaillent plutôt la qualité plutôt que la quantité, qui sont très respectueux d'une culture, etc., ancestrale.
Bio.
On n'est pas, oui. Cela étant, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont pas dogmatiques. C'est-à-dire que voilà, ils vont aussi dire, ils vont pas arriver en disant, bah voilà, c'est ça qu'il faut boire. C'est de dire, il y a des gens qui mettent du sulfite, il y a des gens qui mettent des intrants, etc. Mais il faut aussi comprendre ces gens-là. Mais il donne la parole à d'autres personnes et je trouve que c'est très 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 ouvert comme façon de faire. Et l'émission se termine par une dégustation, c'est-à-dire que le thème c'est tiens bah on est en train de boire un cabernet franc, et ben voilà, donc il le déguste, il donne un peu le contexte de la bouteille, quel est le producteur, quand le il cépage. L'ouvre, il le verse, voilà les cépages qu'il constitue, la couleur, le goût, et puis il travaille aussi sur les accords mets vins en disant voilà tiens ça avec quoi je le boirais, tiens ils sont pas toujours d'accord. Et ils sont très très des fervents défenseurs, par exemple, de dire le fromage, faut arrêter de le boire avec un vin rouge parce qu'il se marie très bien avec le vin blanc.
Bien, voilà. Évidemment.
Et c'est vraiment, ils vont à l'encontre de certaines idées reçues et de choses comme ça, mais tout en disant, vous êtes pas forcément des cons si vous préférez le vin rouge avec le fromage, ou si vous voulez même pas de vin d'ailleurs. C'est juste que
faut tenter. Il y a des vins blancs avec le fromage.
Il y a des choses à tester, voilà, exactement.
Une bonne tartine grillée avec du Livaro et un bon
cidre, c'est délicieux.
Est-ce que j'ai aussi. Ouais, mais
tentez-le.
Eh ben tu vois, je pense que tu pourrais t'entendre avec ces gens-là.
Le cidre avec le verre au sur et le calva.
Et le calva, ouais.
Non mais c'est vrai.
Et tu peux prendre un Gewürztraminer avec des minsters ou même des persillés.
Mais Ludo, avec quoi tu bois ton orangina, toi?
T'as déjà essayé un maroilles aux anchois sur pain d'épices avec un bon orangina? Essaye, tu verras. C'est diabolique.
En tout cas, c'est vrai que moi je trouve que, enfin, vous l'avez peut-être un petit peu perçu dans cette approche. C'est des, ils sont esthètes, mais sans être élitistes.
Oui,
c'est vraiment cette approche-là qui me plaît. Et moi, qui, comme je vous disais tout à l'heure, je suis assez curieux, mais je manque vraiment de culture dans le domaine. Mais j'aime entendre les gens parler de leur passion. Et c'est vraiment dans leur approche. Ils sont vulgarisateurs.
Oui,
tout en restant professionnel.
Ils nous mettent pas sur la route, sur le côté, parce que eux, ce sont des professionnels avec, parce que c'est aussi très technique, la dégustation.
Exactement.
Du vin. Et c'est vrai que tout de suite, quand tu parles de tanin, quand tu parles de robe, quand tu parles de tout ça, s'ils arrivent à le faire de façon,
Mais il y a une phrase qui m'a vachement marqué, que je voulais mettre en avant, justement, c'est, ce qu'évoque l'animateur Romain, c'est de dire, tous les termes qu'on emploie dans cette émission doivent être expliqués.
Bah,
c'est-à-dire que voilà, on explique ce que c'est qu'un terroir, ce que c'est qu'un millésime, ce que c'est qu'un assemblage, qu'est-ce qu'un cépage, etc. Et il parle plus du vin comme un phénomène culturel que comme un produit. Et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment le côté vraiment culturel, entre guillemets, un peu encyclopédique du truc. Et il n'y a pas du tout de jugement ou de dogme. Voilà. Donc chacun peut y prendre un petit peu. Il y a des, il y a pas de se dire vous êtes. Je vais vous donner un petit extrait où là c'est pas d'eux. C'est un de leurs invités qui parle et je trouve que ça correspond bien à leur approche également.
Est-ce que vous partagez ce constat que le statut du vin culturellement a évolué ces dernières années?
Alors oui, bien évidemment, il a complètement évolué. Maintenant, je suis pas forcément enthousiaste.
Ah.
C'est-à-dire que il a évolué, mais c'est un peu comme la société hyper spécialisée. C'est-à-dire que la génération là, je parle pas de ma génération, mais celle d'avant. On buvait du vin sans se poser de questions.
On a intellectualisé le vin un petit peu.
On l'a énormément intellectualisé. Et surtout, je pense qu'on a aujourd'hui, on pense tellement vin, on réfléchit tellement vin, on se cultive tellement vin qu'on ostracise un peu. Il y a plein de gens qui, des fois, passent devant la vitrine et se disent « c'est pas pour moi ». J'y connais rien, je connais pas les cépages, je connais pas les mots pour parler du vin. Et c'est ça qui me gêne un peu. C'est-à-dire que je suis à la fois content que ça devienne un sujet.
Faudrait pas que ce soit excluant.
Mais voilà, mais ma culture française, d'où je viens, d'où nous venons tous, c'est pas ça, hein. Le vin, c'est
la convivialité.
C'est la convivialité, c'est quelque chose qu'on boit à table. Moi, j'insiste énormément sur ça parce que j'aime le vin, mais j'aime surtout matcher, voilà. Retrouver le vin, je dis souvent 1+1=3 avec un bon plat et un bon vin. Donc c'est ça qu'on cherche en fin de compte. Moi, enfin en tout cas c'est une grande partie de chose. Le vin pour lui-même, enfermé dans la dégustation, je l'ai fait énormément, même d'une manière presque stacanoviste. Il faut passer par là aussi, mais c'est pas du tout une finalité. Enfin moi en tout cas c'est pas un modèle que je défends.
Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle quand j'écoute ce genre de choses parce que je suis incapable de distinguer un vin à l'aveugle, je suis très mauvais sur ça. J'aime bien le vin au goût, mais j'aime pas mais j'aime bien découvrir, voilà.
Moi, j'aime bien son discours parce que après finalement, c'est ce qu'il dit, tu bois ton vin pour prendre plaisir à le boire, t'es pas obligé de savoir quel vin c'est, de quelle année.
T'es pas obligé de connaître tout le pédigré pour apprécier le vin,
un
quoi.
Vin. Et puis un palais fait pas un autre palais. Moi, je trouve que c'est toujours très gênant quand tu goûtes un vin et que tu dis ah ben j'aime pas trop le côté ah ben tu sais pas ce que tu bois sous prétexte que c'est un Margaux machin. Mais tu peux avoir des Margaux qui sont pas bons aussi.
Et comme t'as des gens qui aiment les huîtres et d'autres qui aiment pas
exactement.
Et puis d'autres qui aiment le foie gras et d'autres qui aiment pas et puis d'autres qui aiment
voilà. Le palais c'est enfin
justement
c'est les goûts ils sont
ils se battent contre la standardisation des goûts
sûr,
de dire
et
c'est pas
d'accord.
Parce qu'il y a quelqu'un qui a noté tel vin telle note dans un guide quelconque, que le vin,
totalement
vous devez forcément
d'accord.
L'apprécier ou
et
être hypocrite de faire semblant de l'apprécier
parce que
sinon vous vous sentez exclu, quoi. C'est ça,
le propos du film Mondovino, d'ailleurs.
Oui,
si
c'est
vous
ça.
Vous vous souvenez?
Exactement.
Qui, bon, alors là, ils étaient dans les très très grands crus, mais qui ont été eux-mêmes complètement classés par certains guides, ouais. Etc. Et bon, voilà, quoi.
Et moi, je suis désolée, t'es pas obligé de mettre une blinde en termes de
c'est souvent ce qu'ils disent,
ça, c'est
pour
clair.
Pouvoir prendre plaisir à boire des bouteilles. Et justement, c'est ça aussi le problème. Faut savoir que t'as plein de petits vignobles qui sont à côté des Pétrus ou des choses comme ça, qui ont des vins de qualité parce que les vignes sont pratiquement exposées de la même façon. Après, il y a quand même aussi le travail au niveau du chai. C'est les assemblages. l'âge, les dosages, le degré d'alcoolisation, c'est tout un travail. Ça, c'est, moi, pour moi, c'est de l'art.
Mais oui, mais c'est, donc, c'est ça qui défend, en fait. C'est le côté artisanal, en fait.
Ouais, tu es curieux ou tu l'es pas. Donc, il faut pas s'enfermer, effectivement, dans l'idée que, sous prétexte que t'as pas acheté un cheval blanc ou un pétrus ou je ne sais quoi, si c'est pas un vin que tu connais, qu'il faut pas le boire. C'est pas parce que tu le connais pas qu'il est pas bon, justement.
Il y a aussi des circonstances de dégustation. C'est-à-dire que, tu vois, là, ce midi, on rigolait avec ce qu'on a bu, mais c'est des petits vionniers. Quand il fait chaud, voilà, tu les sers frais. Tu vas pas déguster un Bourgogne à 300 euros la bouteille sous un cagnard pareil. Enfin, par contre, si tu vas dans un grand restaurant ou à l'assemblage, là, ça vaut le coup de déguster un très très grand vin.
Parce que tout a été pensé pour ça.
Pour un vin, tout a été pensé, voilà. Mais on peut s'éclater avec une bouteille à 12 euros, même moins de 10 euros dans certaines cas. Voilà. Vous avez de très
très bons vins. J'avoue que j'ai trouvé des rosés chez Lidl en bio. Sainte-Victoire, c'est des petits nectars, ils étaient à 5,49€, je t'assure, c'était une tuerie.
Et moi, je veux dire, avec mon litre d'alcool à brûler coupé au glycol,
mais avec un peu d'orangina.
Mon joli grain, j'achète par cubi, un par jour. Hein, tu vois, jamais été mécontent. Hein,
jamais malade. Hein. Jamais,
d'ailleurs, votre collègue là du début prend le même. celui qui fait grève là. Marius.
Lui prend et prend tout ce qu'il peut prendre sous ça. Et donc voilà, ils ont. C'est un peu le déroulé des épisodes, je dirais, classiques, mais ils ont aussi des épisodes hors série, dont Le Chant de la Terre, qui est un épisode sorte de chronique qui allie à la fois la géographie et les chansons de terroir en fonction des vins. Donc voilà leur la musique, c'est-à-dire qu'ils vont trouver, s'ils vont parler du Beaujolais, ils vont trouver les chansons du Beaujolais, en fait. Donc l'exemple...
La chronique de Grégoire, en général, ça commence comme ça.
Entends-tu le glouglou dans les verres? Entends-tu le joli glouglou? La servante n'est pas sévère. Vive la vigne de chez nous.
Donc vous voyez, c'est plutôt des chansons franchouillardes, campagnardes, etc., mais qui évoquent aussi le rapport culturel au vin et à quel niveau ça peut être très très impliquant dans la vie jusqu'à présent.
Ils ont pas parlé licence 4, non?
Ouais, même pas. Ou alors j'ai peut-être raté cet épisode-là, en fait. Et ils ont aussi des épisodes qui s'appellent matière à penser, pour le jeu de mots matière à penser, qui est justement un peu plus entre guillemets philosophique. C'est des petites chroniques sur le vin doit-il être bon ou beau, le vin et le temps, etc. Enfin voilà, c'est des sujets qui amènent à rapporter le rapport au vin et pas uniquement en termes de consommation. Et de temps en temps des épisodes bonus dans des salons, ils donnent la parole à des fournisseurs, à des producteurs, etc. Enfin voilà, c'est un podcast que je vous invite à aller découvrir pour une trentaine 30-40 minutes par épisode. Ça la va, terre à boire. Plus de 30 épisodes à ce jour, mais ça s'écoute très très bien et ils sont plutôt sympas et je vous invite à jeter une oreille.
All right.
Et là un sujet qui va peut-être encore plus parler, puisque qui va plus nous ramener à l'activité, en tout cas professionnelle, de Fred. C'est un podcast qui s'appelle L'Atelier BD. Je ne sais pas si tu connais Fred L'Atelier. C'est quelqu'un que tu connais, je pense, qui m'en a parlé. C'est CK. Qui m'avait conseillé de jeter un coup d'œil. Enfin, il m'avait pas donné de conseil de jeter un coup d'œil. C'est-à-dire que c'était un podcast qui avait lancé une campagne Ulule avant de se lancer. Et c'est CK a travaillé avec un des animateurs qui est Yigael, je sais plus son nom, j'ai plus son nom de famille, désolé. Et du coup, j'avais été un petit peu, parce que c'est la BD, c'est quelque chose qui m'intéresse, le podcast c'est quelque chose qui m'intéresse, donc les deux, j'étais allé jeter un petit coup d'œil. Donc ils ont réussi à atteindre leur objectif sur Ulule, ils demandaient 3 600 €. Alors moi, je trouvais ça un peu important pour lancer un podcast, mais après, je me suis dit pourquoi pas, hein, c'est même pas ce qu'on a dépensé en 6 ans. Donc. mais en tout cas, il y avait pas mal de contributeurs, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine attente. Et pourquoi il est assez intéressant ce podcast? Parce qu'il est animé par des gens qui sont dans le métier de la BD. C'est-à-dire que c'est pas des critiques, c'est pas des gens comme nous qui parlons de nos coups de cœur ou de choses comme ça, c'est des gens du milieu de la BD qui viennent parler un petit peu de leur quotidien et de leur fonctionnement. Donc, alors, je vais tout de suite parler tout de suite de ce qui ne va pas trop, c'est-à-dire que justement par rapport au montant qu'ils attendaient et puis finalement par rapport à la qualité sonore, je suis un tout petit peu déçu moi de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 2 épisodes qui sont pas inaudibles mais qui sont très 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 mauvais en son. C'est dommage parce que les sujets abordés sont vraiment très très intéressants. Donc c'est comme son nom l'indique, l'Atelier BD, c'est donc une émission qui parle de l'atelier qu'on appelle du 9e art, enfin l'activité du 9e art au sens large. Mmh. Ça parle du franco-belge, comme on a eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent, mais aussi du comics, enfin des comics, pardon, de l'univers des comics, l'univers des mangas et de tout ce qui s'y allie. Et c'est animé par une équipe d'auteurs. Donc les auteurs, il y a donc Yigael, il y a Sissi Mia qui est une auteure jeunesse, Jidaf qui est dessinateur et scénariste, Marine, étudiante en art et qui est fan de BD et qui commence un peu à s'y mettre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Noto, qui est dessinateur de presse et d'humour. Voilà plusieurs j'irais face du métier de facette plutôt du métier qui tourne autour de la BD. Et depuis l'épisode 5, Margot, qui est une gérante de librairie indépendante à Carcassonne, qui est venue aussi apporter sa pierre à l'édifice et sa vision du métier. Donc dans le déroulé, leurs épisodes sont assez constants, hein, c'est-à-dire que dans la première partie, ils parlent de l'actualité au sens large de la BD, qu'est-ce qui est sorti dernièrement, qu'est-ce qui fait l'actualité de la BD à la fois dans les parutions, mais aussi dans l'univers un peu plus large, les lectures des uns et des autres, ce qu'ils ont bien aimé depuis le dernier épisode. Toujours dans l'univers du BD. Et ensuite, dans la continuité, ils reçoivent un acteur du monde de la BD. Alors souvent, c'est scénariste, dessinateur, mais aussi une libraire qui est devenue ensuite chroniqueuse, etc. Et dans la dernière partie, il y a un débat. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça a été lancé, le premier épisode a été lancé en février 2018, après Angoulême. Des épisodes qui sont mensuels, hein, des émissions de 2 heures. Là, c'est un petit peu plus long, mais il y en a un petit peu moins. C'est mensuel, donc ça passe pas mal aussi. Et il y a donc 6 épisodes à ce jour, 5 plus un hors-série spécial Spirou, qui a été enregistré en Belgique. Et donc dans les épisodes, au niveau des invités, donc je vous ai parlé de Margot qui s'occupe de Bulle et compagnie, donc une librairie spécialisée BD, manga, comics à Carcassonne. François Duprat, qui est un auteur BD jeunesse plutôt fantastique. Ingrid Chabert, qui fait du livre jeunesse et scénariste BD. Et puis ils ont des thématiques donc dans les débats, les rémunérations des auteurs lors des festivals et dans les dédicaces en librairie. Donc ils apportent à chacun leur point de vue. Est-ce que un libraire, enfin, quels sont les critères dans lesquels on doit être, est-ce qu'il doit y avoir un forfait, est-ce que, enfin voilà, tous ces sujets-là. Enfin, je vais pas tout vous dévoiler parce que c'est assez intéressant comme débat. La solitude de l'auteur de BD, on en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un auteur de BD peut vite se retrouver à être entre quatre murs et puis à travailler dans son coin sans forcément avoir de relations et d'interactions sociales. L'édition de la BD, c'est-à-dire notamment comment on choisit une couverture quand on est créateur, est-ce qu'on choisit plutôt celle-ci ou celle-ci, comment on a déjà un peu abordé le choix d'un dessinateur quand on est scénariste, comment assurer la promo des albums quand il y a plus de 5000 BD qui sortent par an, et comment arriver à faire son trou, comment on assure sa promo, quelles sont les
différentes
les choses, ouais, c'est un peu la difficulté. Non mais t'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que la visibilité. Est-ce qu'on doit faire feu de tout bois ou est-ce qu'on doit spécialiser sur certains événements qui vont être plus qui vont nous donner plus de visibilité. La place d'un scénariste, tiens, ça peut être intéressant dans un festival et pour des dédicaces, parce que souvent il y a des gens qui se pointent et ils se disent ah mais vous êtes que le scénariste, moi je veux une dédicace du dessinateur quoi. Et le côté
classique.
Un peu ouais, non mais
classique,
des choses que tu dois, t'as certainement dû bien connaître, sûr, etc. Enfin,
et... même si ça ne m'effraie pas de faire un festival seul maintenant.
Oui, mais c'est vrai que quand on participe à un festival et qu'on voit des dédicaces, c'est vrai qu'on se dit, nous en tant que, je dirais, festivalier, on se pose pas la question en ces termes-là. Et quand on voit l'envers du décor, on se dit, oui, c'est vrai que c'est irrespectueux d'avoir ce genre d'approche. Quand on est passionné de BD, on consacre pas ce genre de discussion et de propos à un scénariste. Aussi, trop de marketing de temps en temps, trop de PLV, trop de produits dérivés, de choses comme ça. Enfin, où s'arrêter? Et voilà, c'est pas mal de sujets comme ça qui sont abordés. Moi, je trouve ça très intéressant parce que, justement, ça donne un petit peu l'autre discours que le côté un petit peu, des fois, paillette qu'on peut avoir. Enfin, paillette, entre guillemets, hein, mais voir que le bon côté. Et puis, ils abordent, là, ils l'ont pas encore abordé, mais ils mettaient déjà un petit peu en pointillé ce qu'on va peut-être évoquer avec toi, c'est-à-dire la colère des auteurs. Je sais plus comment s'appelle le hashtag qui est actuellement,
auteur en colère, voilà. Tout simplement,
ouais. Et c'est vrai que ça met en lumière un peu ce genre de problématiques. Donc voilà les deux podcasts que je voulais vous présenter. Je sais pas si ça vous a donné envie. Et puis d'ailleurs, on va pouvoir rebondir avec toi, Fred, sur
quel format celui-ci en durée.
2 heures à peu près. C'est aux alentours de 2 heures. Alors ils sont 5-6 en fonction des personnes, donc un peu comme nous forcément. Si tout le monde doit avoir son temps de parole, ça augmente un petit peu la durée de l'émission, mais par contre il y en a moins. Voilà, ils sont mensuels, donc ça s'écoute très bien, enfin de mon point de vue.
D'accord,
voilà.
Bon. Non, mais c'est très bien.
Et donc tu connaissais, non,
non, pas du tout,
pas entendu parler.
Non, 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 non. Non, mais je trouve ça très bien. Enfin, c'est une bonne initiative. Après, j'aurais tendance à dire que tous les endroits, tous les formats où les auteurs peuvent se rencontrer et parler autrement qu'autour d'une table dédicace ou dans un salon où il y a beaucoup de monde, où on n'a pas, sont de toute façon à souhaiter, parce que le grand piège qui nous guette, qui guette toute
profession ou catégorie menacée, parce qu'on est menacé, faut appeler les choses.
Oui, c'est un peu c'est ce qui ressort actuellement,
c'est,
en tout cas.
Voilà, c'est de, que finalement on se batte entre nous. Mmh. Et, donc les dessinateurs contre les scénaristes.
Divisés pour mieux régner,
les
quoi.
Les scénaristes le contre côté... les coloristes, et voilà. Et puis qu'on. La part de gâteau est pas bien grosse, et puis que plutôt que d'aller expliquer comment faire pour qu'elle soit un petit peu plus grosse, qu'on essaye de se la répartir différemment entre nous. Ça, c'est un piège, donc je crois que la seule façon de l'éviter, c'est que tout le monde comprenne bien les problématiques de tout le monde. Effectivement, les problématiques d'un scénariste ne sont pas celles d'un dessinateur, clairement.
Tu l'évoquais déjà dans la temporalité, dans plein de choses.
Mais dans plein de choses. C'est-à-dire que moi, dire qu'aujourd'hui, dans la BD, est-ce que ce sont les scénaristes qui sont plus en souffrance ou les dessinateurs, on ne peut pas déterminer. J'aurais tendance à dire que quand les choses sont lancées, quand une carrière est lancée, la carrière d'un scénariste est plus simple, parce qu'il peut multiplier les projets, effectivement, multiplier les royalties, voilà. Mais au départ... Pour un scénariste, c'est archi galère, comme on dit de nos jours. Parce que trouver des dessinateurs, un dessinateur, quand il démarre, il va montrer un dossier, l'éditeur, il peut le juger en un clin d'œil. Oui. En fait. On voit en un clin d'œil le niveau d'un dessinateur quand on s'y connaît un peu en dessin. Voilà. On peut voir aussi le potentiel.
Oui.
C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de rencontrer des dessinateurs où c'était un petit peu juste, mais je savais, a priori, que dans 5 ans ce serait bon. Donc là on peut faire un pari. Sur un scénariste c'est quasiment impossible. Comment voulez-vous savoir si un type qui écrit à peu près correctement à 20 ans sera un génie à 30 ans? Voilà. C'est impossible. Voilà. Sinon, voilà, je pense que tout le monde aurait signé 12 projets à Wilfried Lupano quand il avait 20 ans. Et quand il avait 20 ans, Wilfried Lupano, il signait très peu.
Oui.
Voilà. Donc, on est dans des problématiques, dans des carrières complètement différentes. Et donc, je crois qu'effectivement, notamment pour les jeunes qui démarrent dans ce métier, bien connaître le métier des autres, c'est déjà important. Et pour ça, il faut se parler. Vraiment.
Oui, l'échange, vraiment.
Donc, bon, ça, c'est une chose. Après, la situation globale des auteurs aujourd'hui, bon, elle est pas, c'est pas né d'hier. C'est-à-dire que c'est une lente descente, hein, qui croise deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la surproduction. Alors, avec des chiffres qui sont pas toujours les bons non plus. On est plutôt dans le franco-belge à 1200, 1300 nouveautés dans l'année. Quand on parle de 5000, c'est les rééditions, les mangas, les comics, etc. Bon, mais c'est vrai que les tables des libraires, les magasins, les librairies ne sont pas extensibles. Bon, bref. Mais
le portefeuille des acheteurs potentiels.
Non plus. Moi, j'ai toujours eu du mal à me dire que le fait qu'il y ait une profusion de bouquins était un problème. Il peut y avoir des micro-problèmes liés à ça, évidemment. Mais je ne pense pas que le problème structurel dans lequel est aujourd'hui la bande dessinée vienne du fait qu'il y ait un peu qu'il y a trop de bouquins. C'est pas ça.
Il y a trop de choix, finalement.
Il y a trop de choix, voilà. Le fait est que les auteurs de bande dessinée vivent mal de la bande dessinée parce qu'ils sont mal payés. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, il n'est pas question de réduire le problème, mais au fond du fond, le problème est quand même là. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui sont payés moins de 100 euros la planche et qui acceptent ça. Parce que on va pas leur jeter la pierre non plus. Hein. Ils ont envie de faire un livre. Ils n'ont pas le choix. Voilà. C'est quand vous passez une semaine sur une planche et que vous êtes payé 100 euros pour la faire.
Oui.
Bon, il y a un problème.
Oui.
Voilà. Donc après, moi, on peut m'expliquer qu'il faut multiplier les aides publiques, qu'il faut payer les gens dans les festivals. Oui, bien sûr qu'il faut payer les gens dans les festivals. À partir du moment où on fait une prestation, on doit être payé. Quand on va chez un libraire, faire une rencontre ou une dédicace chez un libraire qui, pour la plupart, sont eux-mêmes en dessous du SMIC, là, je vois pas comment on pourra trouver un modèle économique autour de ça.
Oui.
Je vois pas. Donc, il faut dialoguer, bien poser les choses, ce qu'on fait d'ailleurs remarquablement bien les attachés généraux de la BD. Hein, ils ont interrogé les auteurs, ils ont pris leur temps, ça a duré un an et demi, deux ans, et puis ils ont sorti un document. Ce document, s'il y a un service à rendre aujourd'hui à tout le monde, c'est que de le faire lire, qu'on arrête de parler de choses qui sont vaguement entendues. Non, les états généraux, ça a donné des chiffres. Ça dit que la moitié des auteurs de bande dessinée vivent en dessous du SMIC et que 30% sont en dessous du seuil de pauvreté. Et pour les femmes, c'est pire, c'est 50% en dessous du seuil. Voilà, ça c'est concret. On était 1500 à répondre sur une profession estimée à 3000 personnes. On est dans quelque chose d'assez crédible. Quelque chose d'assez crédible. Donc voilà, ça c'est super important. Et je pense qu'en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de grogne, il y a beaucoup d'acheteurs. hashtags, il y a beaucoup de tout ça. C'est bien, c'est normal, on ne peut plus faire autrement puisque les pouvoirs publics ne nous écoutent pas sur des choses qui sont quand même un peu aussi de leur ressort, mais pas que de la culture. Le ministère des Affaires Sociales, aujourd'hui, est quand même responsable, et pas que sous Macron, ça a commencé sous Hollande, quand il y a eu une augmentation sans discussion, sans préalable des taux de retraite, de la manière dont les retraites complémentaires sont perçues, ça a été d'une violence incroyable. Et vous aviez de l'autre côté des gens qui ne comprenaient pas parce qu'ils étaient dans la logique, ils disaient, mais c'est bien d'avoir une retraite. Oui, sauf que quand on vous donne 100 balles pour faire une planche, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
C'est pas la priorité du moment.
Et donc voilà. Et dans les discussions qui ont lieu entre les syndicats, les représentants d'auteurs et les pouvoirs publics, on a souvent des gens qui sont salariés qui n'imaginent même pas ce que c'est la vie de quelqu'un qui n'est pas salarié. Ça vraiment, ça peut paraître un peu populiste de dire ça, hein, mais
c'est la réalité.
Voilà, oui. Et donc il faut vraiment que les gens s'écoutent. Et cesse de dire non, mais là, qu'est-ce qu'on va pas se laisser embêter par 2000 auteurs là, c'est, voilà. Moi, on m'impose une cotisation pour que je fasse de la formation professionnelle, vous voyez. Et ça a été présenté comme un acquis pour les auteurs. Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique quand est-ce que je vais en faire de la formation professionnelle. Ce que je vois, c'est qu'on prend 1% de mes gains. Et moi, c'est pas très grave parce que je gagne bien ma vie. Mais pour quelqu'un qui la gagne mal, 1%, c'est important. C'est énorme. Et ça, plus ça, fait qu'aujourd'hui, alors la retraite complémentaire, là, vraiment, ça, c'est un carnage. C'est un carnage. Ça enlève à peu près 3 semaines à 1 mois de revenus aux auteurs.
Oui.
Voilà. Donc quand t'es à 1000 euros par mois, comme la plupart des auteurs, quand t'enlèves encore 1000 euros pour ta complémentaire, ben voilà. Ça, c'est clairement 10%, et c'est 10% qui touchent directement au frigo. On n'est pas à se dire, tiens, bah, il va acheter moins de timbres ou de. Je sais pas quoi.
Il ne s'achètera pas de voiture cette année. Voiture.
Non, on est dans le frigo. Voilà. Donc, on en est là. Alors, évidemment que ça grogne. Évidemment, et que les auteurs ont bien raison de grogner. Mais au-delà de la grogne, moi, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir quand même à un moment, au ministère des Affaires Sociales, des gens qui vont juste accepter d'écouter ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes des anomalies et nous le revendiquons. Et donc il faut s'occuper des anomalies. Une société qui ne s'occupe pas des anomalies, société qui va crever. Parce que justement, on n'a que des gens qui sont, alors qui vont remplir qu'une case dans leur feuille d'impôt, c'est très bien, hein, moi j'ai rien contre. Mais voilà, on en est là. Et je pense pas qu'il y ait que les auteurs de BD qui soient concernés par ça.
Ouais, c'est une espèce de standardisation globale.
Absolument.
J'ai de l'écho, ouais, aussi.
Oui.
Peut-être faire une petite pause juste pour l'écho. Donc oui, Fred, bah, merci pour cette analyse de l'avenir de la BD. Alors, est-ce que tu as des petites choses en complément avant qu'on passe à ton avenir à toi?
Oui, parce
en
que,
termes de projet.
En fait, l'avenir, bon, là, on en parle un peu de manière sombre, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura, c'est la profession qui a un avenir. C'est la professionnalisation des auteurs. S'il y a plus de professionnels, il y aura quand même des bouquins qui se feront. Il y aura des chefs-d'œuvre. Évidemment, il y en aura moins, mais toute la chaîne du livre sera affectée. Forcément, les premiers touchés seront sûrement les libraires et les éditeurs qui continuent à nous dire oui, on vous soutient, mais qui continuent à ne donner que 8% au prix de départ des auteurs, alors que bon an mal an, quand même les frais de fabrication se sont considérablement réduits. Aujourd'hui, sont par exemple les dessinateurs font des gestes techniques comme le scan qui n'est donc plus facturé, et tout ça fait que voilà, il y a une réflexion à avoir, mais qui est interne à la chaîne du livre, donc, avant d'aller voir les pouvoirs publics pour leur dire sauvez-nous. Là, je pense que la chaîne du livre, elle a
doit se
encore
prendre en main, en fait.
Oui, il y a encore de la marge, et donc il faut faire attention à la démagogie quand on dit oui, mais regardez, ce sont les libraires, eux, ont 40% du prix d'un livre. Oui, mais le libraire, lui, il paye un loyer, il paye des frais de livraison, il paye des frais de retour. Donc il faudra regarder les bénéfices réels de cette chaîne. Voilà.
Oui.
Et donc voilà, c'est tout ça, et on compte sur les politiques pour avoir un soutien dans cette discussion. Hein. Il ne s'agit pas de devenir des agriculteurs subventionnés. C'est pas ça qu'on veut.
Oui.
Enfin, là, je me permets de parler au nom des autres, parce que, vraiment, je l'entends souvent, quoi. On ne va pas demander de la subvention pour écrire.
Voilà.
On demande juste à être bien payé, correctement payé.
Voilà. Tu as l'air de sous-entendre que c'est de l'édition qui viendrait une partie de la solution, en tout cas une meilleure redistribution de la part de l'éditeur.
Évidemment.
Ouais. Non, mais
évidemment. Ah oui. Oui, donc clairement. Clairement, moi, j'ai de très très bons rapports avec mes éditeurs. Je suis quelqu'un qui sait à peu près négocier ses contrats et depuis longtemps. Je m'y intéresse. Faut être actif là-dedans. Mais on obtient de bonnes conditions quand on a un peu de bonnes ventes aussi. Donc on est dans un système ultra libéral dans l'édition. Donc, et il s'agit aujourd'hui de dire ce système. Quand il y avait 500-600 nouveautés par an, il permettait quand même aux gens de survivre parce que on pouvait leur donner quand même des. Je vais pas être trop technique, mais les gens ne remboursaient pas tout leur avaloir. Il y avait une petite partie qui était pratiquement du fixe, des choses comme ça. Il y avait des prépublications dans la presse. Qui était de vrais apports. Aujourd'hui, on est quasiment dans la coédition, c'est-à-dire que vous faites un bouquin, on vous prête de l'argent pour le faire et vous le remboursez sur les ventes. Donc ça veut dire que il faut vendre entre 20 et 30 000 livres pour rembourser cet avaloir. Ça veut dire donc que très peu de gens touchent vraiment des droits d'auteur. Voilà. Et ça, c'est pas normal parce que, du coup, on en remettra en question l'idée même de droits d'auteur en disant, puisque plus personne n'en touche, supprimons-les et payons les gens totalement au forfait. Voyez. Et c'est l'ultralibéralisme qui s'impose. Alors avec le sourire, bienveillance par moment.
De toute façon un peu insidieuse, etc. On voit pas venir les choses. Et puis
voilà. Et du coup, on est dans certaines discussions dans les instances. Alors évidemment, tout le monde aura à s'exprimer. Il faut parler des choses. On peut avoir par moment des remises en question d'un acquis de la Révolution française quand même. C'est pas rien.
Écoute, c'est vrai que ce portrait que tu nous dresses, c'est peut-être pas très très gai, mais justement, on va rebondir sur des sujets peut-être plus optimistes, en tout cas sur tes productions à toi, sur ce qui va sortir incessamment sous peu, que ça soit au printemps, plutôt à l'automne, d'après ce que tu disais, et puis peut-être début 2018. Donc, qu'as-tu à nous annoncer pour l'automne? Alors, t'as déjà commencé à nous. Alors, nous-mêmes, actuellement, on a parlé des porteurs d'eau, mais tu nous parlais tout à l'heure de Lincoln.
Il y a Lincoln qui vient de paraître aux éditions Glénat, donc dans la collection Ils ont fait l'histoire. C'était une expérience sympa parce qu'on travaille avec un historien, donc avec Farid Hammer, qui a bien compris ce qu'était la bande dessinée. Et donc, il m'a pas imposé un texte ou il a bien compris les problématiques d'un scénario. Donc, on a fait un bouquin sur Abraham Lincoln, qui est quand même un personnage.
Une figure, quand même, on peut dire les choses.
Une figure de l'histoire mondiale, et puis, l'avenir proche, ce sera en août, un Moriarty qui sort, une vision steampunk, donc c'est une coécriture avec Jean-Pierre Pecot, sur un dessin de Stéphane Subic.
D'accord.
Ça va être une mini-série qui s'appelle Moriarty, qui s'intéresse donc au grand méchant de Sherlock Holmes de manière steampunk. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Et puis, au mois d'octobre, on va avoir la grosse sortie qui est Renaissance. Chez Dargo avec Mathieu Ménage et même au dessin, Fred Blanchard au design. Donc voilà, ça c'est un gros gros boulot entamé il y a 2 ans.
Donc là t'arrives au bout.
On est un peu là, on a commencé le deuxième nous parce que on est là le travail commercial est en train de se faire. Le bouquin a plu, c'est plutôt sympa parce qu'on vit un truc assez bien quoi.
Il est prévu en combien de tomes?
Première saison de trois bouquins et puis Dargo s'est engagé sur trois albums. Un gros projet de science-fiction en fait, et avec un point de vue, quand je parlais des points de vue tout à l'heure, qui se veut un peu original puisque là on va vivre une invasion extraterrestre mais du point de vue d'un alien en fait.
D'accord.
C'est le héros l'idée un peu marketing, comme le pitch si vous voulez,
c'est le
premier héros extraterrestre de la BD franco-belge. Il y en a eu dans les comics et
c'est intéressant effectivement parce qu'on voit toujours le côté anthropomorphique, anthropocentré d'une invasion, d'une première rencontre.
Là ils viennent pour nous dépanner parce que la Terre on peut plus quoi. Et donc c'est l'histoire de gens déracinés puisqu'ils sont en service actif.
D'accord.
Et donc je prends l'histoire d'un couple tout bête qui vient de se marier. Alors il y a un mariage, une façon comment ils se marient.
D'accord.
Et en fait leur planète c'est une espèce de terre qui a réussi dans la vie quoi. C'est, ils ont
donc en creux, tu sous-entends qu'ici ça réussit moyen.
Bah, ici, on a fait le choix des hydrocarbures, de s'y tenir et puis de jamais essayer de faire
jamais remettre en question ce qui semblait fonctionner pour certains.
Voilà. Et eux l'ont fait. Donc ils ont une approche de l'informatique qui est très raisonnée. Tout est un peu raisonné. Puis voilà. Puis ça, évidemment, ça va se compliquer un petit peu au fur et à mesure de, du récit. Oui. Mais on va se rendre compte que peut-être qu'ils sont parmi nous depuis plus longtemps qu'on ne pense, etc., etc.
D'accord.
Mais il y a tout un travail sur cet univers-là. Et voilà. Et Mathieu a fait une très très jolie couverture.
Ah oui, oui. Qui elle est alléchante.
En effet. Voilà.
Tu la prends en photo justement pour qu'on voit un peu le. Tout à fait. Super. Et tu nous évoquais un petit peu avant le début de l'émission. Tu travailles aussi sur une adaptation d'un roman à succès d'un auteur normand aussi.
Oui, oui. Alors ça, c'est donc les Nymphéas Noirs de Michel Bussy. Ça sortira pour le tout début d'année, enfin pour le Festival d'Angoulême, en fait.
D'accord.
Là, c'est quasiment officiel. Donc il y aura une sortie pour Angoulême. Donc je pense que l'album en soi sera dans les librairies en février.
D'accord.
J'imagine fin mi-février. Donc voilà. Oui, oui, c'est un travail donc avec Didier Casgrain, avec qui j'ai déjà réalisé 5 albums de Carmen, la mini-série Con McCallum. Et voilà, donc un travail avec Michel Bussy qui a commencé il y a 2 ans. On s'entend plutôt bien. Je vais adapter d'autres romans de Bussy. Oui, oui.
D'où l'idée partie en fait. De qui
ces deux univers assez différents aussi. Enfin, Michel Bussy avait envie de rencontrer les auteurs de BD. Ah, il l'a fait savoir. Il est venu à un de nos repas. On organise les auteurs de romans organisent chaque mois un repas auquel Nicolas vient de temps en temps d'ailleurs, et auquel vous êtes cordialement invité. Et un auteur lui avait dit écoute, il y a ça, si tu veux. Il est venu une fois, et puis il y avait justement ce jour-là un éditeur qui travaille aux éditions Dupuis qui était présent. J'ai fait les présentations en fait tout bêtement, et puis 3 mois plus tard, cet éditeur m'a dit écoute, nous on a vu Michel, on a rencontré, on est parti sur une base d'accord pour l'adaptation des Nymphéas Noirs, et vu que t'es de Rouen, vu que t'as fait la présentation et que t'es professionnel, on propose de le faire. Donc
voilà. Dit banco.
Voilà. Voilà, moi Michel Bussy, je l'avais rencontré qu'une fois ce jour-là.
D'accord. Ah oui.
En fait. Ouais.
D'accord.
Eu une fois par mail, et puis en fait on a sympathisé, et puis comment dirais-je, voilà, on est là, on est même. C'est pas vraiment un scoop parce que mais c'est contraint en tout cas de négociation, mais on a écrit un scénario ensemble original.
D'accord. Ah oui. Ah oui.
Voilà. Ah ouais. Voilà. Mais là, on n'a pas encore le dessinateur, donc je peux pas en parler. Mais bon, voilà, c'est signé chez Dupuis. Enfin, c'est en cours de signature. J'ai Dupuis aussi.
Belle collaboration.
Ouais, c'est sympa. Voilà.
C'est vraiment super. beaucoup de choses à ton arc et à ton actif dans les semaines et les mois qui viennent.
Sinon, tes journées, elles durent 24 heures, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est bon, il bosse de 13h à 19h.
Quand j'aurai fini tout ça, je pense, refaire une petite expo. Mais ça, c'est plus mon plaisir perso. Quoi.
Ah oui.
Une petite expo photo. Donc, ça sera au Rêve de l'Escalier. Ça,
non,
c'est
on connaît
sûr,
pas, non? C'est où?
Quand donc, chez Michael, puisque me l'a très, très, très gentiment proposé. On manque dans les gens de mon niveau. Manque d'endroits où vous s'exposez, vraiment, on expose les grands photographes, voilà quoi.
Ouais, et il y a un thème dans ton expo?
Moi je travaille beaucoup sur les arbres en fait. J'ai un projet qui s'appelle que j'ai commencé il y a 2 ans, qui s'appelle La tragédie des racines. Et j'ai déjà fait une expo autour de ça, c'est autour des arbres et puis de la tragédie des racines, parce que voilà, les arbres sont menacés. Et voilà, là ça serait l'acte 2, et je voudrais faire ça, peut-être à la fin faire une petite compilation dans un petit bouquin ou le faire à chaque fois, je sais pas encore. C'est vraiment 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 une question de temps. Les projets d'auto-édition dans la photo,
ça nécessite de se poser dessus quoi.
Pas trop le temps de partir en vacances, donc si je commence à faire de la micro-édition au lieu de partir en vacances, je pense que j'ai une famille qui à un moment va me dire là monsieur Duval, c'est pas super raisonnable quand même, donc voilà. Mais la petite expo avec Michael, j'ai une douzaine de photos qui sont prêtes, il n'y a plus qu'à les imprimer, ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, ça sera, j'espère, en début d'année, après les Nymphéas, une fois que tout ça, ça sera passé.
Ouais.
Ouais, après, il va y avoir un petit moment un peu plus calme.
Ce sera Noël.
Ça sera passé. Ouais.
Donc, ouais, non, mais c'est beaucoup de choses, effectivement.
Oui, oui, mais c'est bien, hein, je suis super content. Voilà, il y a vraiment des beaux projets là, qui se profilent.
L'avantage, c'est que tu n'attends pas derrière le téléphone, quoi, que ça arrive.
Ben non, mais alors c'est très curieux, c'est très curieux. C'est, le métier évolue. Ce mois-ci, j'ai refusé des projets, j'ai refusé des propositions, et en même temps, on m'en a refusé.
C'est
un moment le même éditeur. C'est ce qui est drôle, enfin ce qui est pas drôle en fait. Pas du tout pour les dessinateurs qui sont embarqués.
Oui, forcément, oui.
C'est pas toujours super rigolo. Donc voilà. Il faut apprendre aussi à vivre avec ça. Moi, j'ai fait mes 20 premières années chez Delcourt, j'étais tranquille, j'avais mon rond de serviette. On me signait tout ce que je voulais, vu que j'étais pas non plus super hyper productif. Tout se passait bien. Et puis quand ça a commencé à monter avec Jour J, notamment, puisqu'il y en a 4 par an, les projets ont commencé à on peut pas tout prendre, donc je suis allé ailleurs, puis aussi l'envie de
voir autre chose,
ailleurs. Puis dans cette même période, moi je suis pas le centre du monde, donc il y a eu aussi une évolution des rapports entre les éditeurs et les auteurs, et là je suis en plein dedans, et c'est du travail, vraiment. Il y a des journées où je peux pas écrire parce que je crois que la France vient de marquer un but, là c'est formidable. Ça fait 2 partout, chers auditeurs.
2 partout ? Putain, j'ai raté un truc, moi. Ah, ils étaient menés tout à l'heure.
Ouais,
je savais même pas.
Et donc, je crois que c'est un gros match, en fait. Puis nous, on parle de BD, de l'avenir, enfin voilà.
Enregistrement durant le France-Argentine.
J'ai perdu mon fil.
T'as perdu ton pari aussi.
Non, ouais, j'ai dit quoi.
C'est une période compliquée.
C'est une période compliquée, ça prend. C'est énormément de temps. Et ça, enfin voilà. Si j'avais les moyens aujourd'hui, je prendrais presque un agent, pas pour dire, pas pour me la péter, mais pour gérer ça,
avoir qu'à te focaliser sur ta compétence.
Et franchement, j'y réfléchis de plus en plus. Alors,
pour te libérer du temps aussi.
Ouais. Je vois justement, j'ai un tout petit approche à voir comment ça marche pour. Bon, alors Michel Bussy, évidemment, il vend tellement de livres. Il a toute une équipe qui s'occupe de lui auprès de la cité. Mais nous, ça nous manque parce que voilà, il y aurait. C'est aussi une question de moyens. Mais j'aimerais bien décharger une partie.
Pour te libérer de certaines contraintes.
De certaines choses, ouais. Parce que garder que la créa et le rapport avec les co-auteurs. Ouais. Mais c'est pas que j'aime pas les éditeurs, moi j'adore les éditeurs, j'ai plein de copains en plus, je suis édité quand je fais Lincoln avec Cédric Ilan chez Glénat. Cédric Ilan, c'est pas un ami, mais c'est vraiment un très très bon copain depuis très 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 longtemps. Il a commencé aux éditions petit à petit à Rouen, ensuite il a travaillé chez Delcourt, aujourd'hui il est chez Glénat, il est directeur de collection. Voilà, on s'entend super bien, on passe des très très bons moments ensemble. Mais il y a aussi une partie du métier où il faut démarcher les éditeurs, leur répondre, etc.
C'est chronophage, quoi. Voilà.
C'est chronophage, voilà. C'est la rançon aussi d'avoir un petit peu de succès.
Quand même. Oui, voilà.
Donc je ne me plains pas. Du tout.
Et ben, merci Fred.
C'est moi.
Avant de passer à la fin, on va laisser la parole à notre invité mystère.
On n'a même pas débattu sur le cinéma de Nolan. Vraiment, Arnaud, il faudra que vous reveniez à la maison.
On reviendra
sans besoin. Ça sera l'occasion.
On reviendra hors micro.
Oui, il y a des choses. Mais avant, laisse-le te dresser ton portrait avant de le réinviter, je pense.
Je rappelle que c'est pas moi qui dresse le portrait, hein, c'est quelqu'un à qui je vais céder ma place.
D'accord, bah écoute, on va voir ça.
Mais pourquoi est-il si méchant?
Ma plaisir. Bonjour à toute la petite équipe de l'Anthropode. Hein. Bonjour Monsieur Fred. Hein. Me présente, Jean-Robert Frégin. Enchanté.
Il me semble que je vous connais.
Mais vous pouvez m'appeler JR. Freddy, qui est parti, là, m'avait laissé une feuille avec des vannes à inclure dans votre portrait sous prétexte que vous avez écrit une BD sur le vélo. Alors, Fred Duval, en vélo, il en connaît un rayon, il a l'air un pneu crevé, sa roue est comme ma voisine, elle est voilée. Bon, autant vous dire que j'ai refusé, hein, puis Freddy s'est enfui. Non, pardon, monsieur Fred, mais ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Ah non, autant pour moi, nous ne nous sommes déjà pas rencontrés quelque part. C'était chez monsieur Nico, par une belle après-midi de juin 2015.
Oui, j'ai encore honte.
À l'époque, toute l'équipe s'était préparée à votre arrivée. Ils avaient mis les petits plats dans les grands pour vous accueillir.
Mais hélas, dans la torpeur de l'été naissant, la nouvelle tomba. Monsieur Nico venait de raccrocher, les yeux embués. Il venait d'apprendre que vous ne viendriez pas, prétextant d'obscurs travaux chez vous qui vous auraient distrait et fait perdre de vue que vous aviez rendez-vous avec l'anthropode. À toute l'équipe se mit à pleurer de concert. Hein. Bon, et pour cause, nous étions tous infligés la lecture de Wonderball pour rien. Bon, il est évidemment pas question de s'attarder sur le sujet, monsieur Fred. Hein. Nous ne sommes pas là pour ressasser le passé, vous pouvez compter sur moi. Pénible souvenir tout de même. Hein. Nous informons nos chroniqueurs et poditeurs que le Fred Duval de 14h est annulé. Aucune demande de remboursement ne sera acceptée. Ah, monsieur Fred, hein, aussi fiable qu'un Rouen Paris un jour de grève. 3 ans plus tard, le Fred Duval de 14h est enfin entré en gare de l'Anthropode. Enfin, soyons précis. Vous avez convié l'Anthropode chez vous, histoire d'être certain de pas nous oublier. Comme si, pour s'assurer qu'un train soit bien à l'heure, Guillaume Pépi vous demandait d'aller le prendre au dépôt. Ouais. Ah, vous avez ainsi trouvé le moyen d'éviter de nous poser un Oryctolagus cuniculus dont vous avez le secret. Ah oui, un géant des Flandres, un gros lapin quoi. Bon Fred, cette fois bien avisé, j'ai préparé 2 versions de mon texte. L'une partant du principe que vous seriez là, et l'autre pour tenir compte de votre éventuelle absence. Car vous m'aviez pour ma part posé un second lapin au café décimé, au cours duquel j'étais déjà revenu sur votre absence devenue. C'est la 3e fois que j'écris sur vous. Vous êtes en quelque sorte ma muse. Vous vous musez, Fred. Vous imaginez dans ce contexte tous les trésors de persuasion que M. Nico a dû déployer pour mobiliser l'équipe aujourd'hui. Et il a malgré tout essuyé un certain nombre de défections de membres de l'Anthropode qui ne se sont jamais remis du camouflet que vous leur avez infligé.
Un jour de match.
Même Starlet, qui ne buvait que du lait grenadine avant le drame, n'a depuis cessé de noyer son traumatisme dans l'alcool. Dans l'alcool.
Et dans l'alcool.
Ah, autant vous dire qu'elle n'était pas très encline à venir. Hein. Elle aurait peut-être fait un effort si votre ouvrage s'était intitulé Les porteurs de rhum ou de pinard ou de gin, mais d'eau, pas question. Christophe, hein, qui a le même coiffeur que feu Marco Pantani, s'est promis de ne daigner lire l'une de vos BD que le jour où vous adapterez un roman de Donatarte, hein, ah oui. Écrivaine pour laquelle sa passion tourne à l'obsession. Notre Marius, quant à lui... Ah non, pardon, Marius, lui, il avait oublié cette journée maudite dès le lendemain. Il sait même pas qui vous êtes. Non, bon. Marius, il a juste pris 3 engagements le même jour, comme d'habitude, et il pouvait donc pas être présent aujourd'hui. Et puis ceux qui sont venus se sont résolument pas foulés, hein. Monsieur Lulu, s'il est bien présent, a mis un point d'honneur à marquer son mécontentement en ne regardant pas de film en lien avec la BD ou le cyclisme. Lui qui d'habitude noircit des pages de papier pour partager sa passion, s'était promis, je cite, de vous faire bouffer ses pages blanches. Mme Didouille était restée muette durant 2 semaines, victime de catatonie suite au choc. Pour être tout à fait honnête, nous vous en avons su gré à l'époque. En tout cas, Mme Didouille, si elle est venue, a veillé à ne pas préparer de chronique. Non, bah, autant pour moi, c'est comme d'habitude. Pourtant, votre histoire d'eau aurait pu inspirer à Mme Didouille une chronique aux accents érotiques dont elle a le secret. Monsieur Freddy, quant à lui, en bon professionnel qu'il est, était bien décidé à attaquer l'émission comme si de rien n'était. Jusqu'à la lecture du questionnaire que vous avez rempli avant l'émission. Vous y dénigrez éhontément les idoles de Freddy, les Charlots. Qualifiant leurs films, qui aux yeux de Freddy sont des chefs-d'œuvre, de nanars pour gamins attardés. Ah, autant vous dire que Freddy a peu goûté la réflexion et il en a encore les yeux bouffis de chagrin. Ah non, pardon, ça c'est son allergie à la bière. Non. Et Monsieur Nico, en grand patron de l'Anthropode qu'il est, il a maintenu le cap envers et contre tout. D'autant qu'il est le seul dans l'équipe à porter le nom d'une série de Monsieur Fred. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous avez cru, à l'écoute de son interminable papier à propos d'improbable podcast, hein, pléonasme s'il en est, vous avez cru, disais-je, qu'il avait sciemment cherché à saboter l'émission ? Ah bah non, il a juste fait comme d'habitude. Et puisqu'aucun chroniqueur n'a bien entendu envisagé de lire votre BD, pas question de se faire avoir 2 fois, Monsieur Nico avait fait préparer à leur attention par Monsieur Arnaud une fiche de synthèse en bande dessinée qu'il a lui-même illustrée de ses petits doigts gourds. Un dessin du niveau d'un enfant de 3 ans est totalement incompréhensible. Et pour cause, à l'image de son auteur, elle avait plusieurs cases en moins. Ah, dire que je m'étais, pour ma part, fendu à l'époque d'un papier tout à votre gloire pour ce rendez-vous manqué de juin 2015. Et comme à l'habitude, hein, Monsieur Arnaud m'avait généreusement laissé le micro. Mais moi aussi, j'avais été victime du dormeur Duval. Et épuisé par trop de travaux à votre domicile et surtout par l'alcool consommé durant ces travaux, vous aviez inspiré à votre épouse, qui vous avait retrouvé épuisé et ivre-mort dans un parterre de fleurs, les quelques vers suivants. Les pieds dans les glaïeuls, il ronfle. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Pour comprendre ce dernier vers pour la route, il faut que nos auditeurs sachent que tout comme Steve Baker, vous aimez à pratiquer le lavis en slip. Nature berce-le chaudement, il a froid, disais-je. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a bu deux coups de rouge et ne s'en remet pas. Ainsi, votre destin, tel votre corps ployant sous l'effet conjugué de l'alcool et de la fatigue, bascula. C'était votre jour J. Je fais là un clin d'œil d'une grande finesse à votre série sur l'Uchronie. Uchronie qui n'est pas une pénurie de Cronenbourg, mais un récit d'événements imaginaires ayant un point de départ historique réel. Les chroniqueurs non amnésiques autour de cette table et nos 10 fidèles auditeurs savent que je recycle ici une saillie écrite à votre attention pour ma chronique d'il y a 3 ans, déjà réutilisée au Café Décédé, mais que vous n'avez de toute façon jamais entendue, et pour cause. Ouais. C'est bien ce 23 mai 2015 que tout a basculé. Votre destinée et celle de l'émission en ont alors été bouleversées. J'ai lu en exclusivité le jour J narrant le fruit de cette bifurcation de l'histoire. 2019, Fred Duval, ministre de la Culture, propose un nouveau statut plus avantageux pour les auteurs. Hashtag auteur épanoui trop content qui roule en Porsche. Et pendant ce temps, l'entrepode intègre la grille des programmes d'Europe 1, qui doit être encore plus mal en point dans ce monde parallèle. Ah si, vous étiez venu, la face du monde en eût été changée. Bon, ce qui ne figure pas dans le titre, c'est que si dans ce monde parallèle, l'entrepode est désormais diffusé en radio, c'est sans Monsieur Nico. Mais avec à sa tête, Monsieur Freddy, jugé plus fréquentable que l'adorateur de Satan ici présent. Faut dire aussi que Freddy, l'infâme renégat, a manœuvré et fait valoir sa carte de presse pour prendre la tête du show. Mais Monsieur Fred, tirons un trait sur ce douloureux passif. Ce douloureux passé. Revenons à vous et à votre parcours. Monsieur Fred, vous avez appartenu à un groupe de rock rouennais qui avait sa petite réputation à la fin des années 80. Amour Noir.
C'est vrai.
Ouais. Le titre de votre single, vendu à plus de 1000 exemplaires, Dernier Taxi. Mmh. Je ne suis malheureusement pas parvenu à retrouver le disque, ni même les paroles, alors je les ai inventées. Bon, sachant qu'au départ, j'avais une chance sur deux que vous ne soyez pas là pour me démentir. Elles m'ont été inspirées par une photo du groupe que l'on retrouve dans un ouvrage rendant hommage à la mythique salle rouennaise, l'Exocet. Hein. Ah oui. Monsieur Nico l'intégrera au billet sur le site.
Bien sûr. Et sur une pochette d'Olivier Vatine.
Tout à fait. Il faut imaginer pour nos auditeurs, pour nos auditeurs qui pourront retrouver ça sur le site de l'Entrepode, que 4 jeunes, devant une gigantesque haie de thuyas, et qui semblent tout droit sortis d'un film de Ken Loach, et parmi eux, un jeune homme aux cheveux drus et frisés, au regard farouche, déterminé, seulement caché par des lunettes de soleil et fier comme un pape dans sa veste à carreaux visiblement faite sur mesure. Bon, certes, à bien y regarder, soit le tailleur avait un surplus de tissu à écouler, soit il avait pris les mesures sur un autre membre du groupe. Bon, à mes yeux, ce titre rendait hommage à une profession parfois incomprise. Hein. Ça donne à peu près ceci, a cappella. Devant les tuyas, je t'ai attendu. Tellement tendu, tellement tendu. Lunettes fumées, veste à carreaux. Sur le carreau, je suis resté quasi figé, comme empaillé, par le dernier taxi, 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 taxidermiste, taxi, taxi, taxidermiste.
Bon, et en 2015, j'ai raté le taxi.
Le fait d'armes du groupe, hein, après avoir joué en première partie de Soldat Louis,
c'est vrai.
Groupe lui-même auteur de ce qui pourrait être l'hymne de l'Entrepode, du rhum, des femmes et de la bière non de Dieu. Monsieur Fred, je vais me faire ici le porte-parole de Monsieur Lulu. Trop timide pour oser vous le demander.
Attention.
Monsieur Lulu est en effet, en quelque sorte, le Fred Duval du mythique groupe Kenkyu. Non, j'ai pas dit mythique, j'ai dit mutique.
Il porte des fesses à carreaux.
Tellement absent des antennes qu'on pourrait les croire muets. Mais Monsieur Lulu n'écrit qu'en anglais et il n'osait pas vous demander les droits de Dernier Taxi pour en faire une adaptation. Il a préparé une reprise plus moderne qui n'attend que votre accord, The Last Uber. En tout cas, Monsieur Fred, c'est finalement pas dans la musique que vous percerez. Hein. Pour en arriver à être le scénariste de BD à succès que vous êtes aujourd'hui, vous avez galéré. Peu de gens le savent, mais en période de disette, vous avez écrit des incognitos, des scénarios de BD érotiques pour une petite maison d'édition spécialisée, Dargro. C'est peu de temps après que, atteint d'une tuberculose que vous mettrez du temps à soigner, vous inventerez la ligne Glaire, qui ne connaîtra guère de succès. Mais c'est finalement grâce à vos deux passions conjuguées que vous serez repéré par votre futur éditeur avec une reprise d'une chanson qui ira droit au cœur d'un ancien invité, Anthony Quindroy. Delcourt. Delcourt, la maladie d'amour. Cette maison d'édition vous offrira sa première opportunité avec une BD commanditée par Barilla, les 500 fusillis. Bon, vous avez depuis tracé votre bonhomme de chemin. Aujourd'hui, fort de vos succès, vous n'avez qu'une humble mais noble ambition. Je vous cite, proposer aux gens de passer un bon moment le soir après le boulot. Finalement, vous avez dans la vie le même objectif que Boubacar, le jeune prostitué sans papier sénégalais qu'il m'arrive de fréquenter sur les boulevards rouennais. Mon amour noir à moi. Allez dans mes bras, Fred, sans rancune, hein, tout est pardonné, hein, faites-moi gros câlin. Bah, c'est vrai que vous avez toujours le cheveu dru et assez doux, ma foi, mais c'est un postiche. Mais vous n'êtes pas Fred Duval. Imposteur. Mais quoi, monsieur Nico? Non, oh non, c'est pas possible, monsieur Nico, mais fallait le dire. Oh, comme monsieur Nico est arrivé ce matin pour tout installer, Fred Duval n'était pas là. Parti en vacances ou sur un nouveau chantier, on n'en sait rien. Et pour garder la face aux yeux du monde, monsieur Nico a payé un comédien pour jouer le rôle de Fred. Ça explique donc maintenant certains propos incohérents tenus par le soi-disant Fred durant l'émission. Non, je suis furieux. À nouveau une chronique pour rien. Ben, je vous présente, monsieur Nico, moi j'arrive au bout du sujet. Hein. Comment ça, ça s'entend?
C'est bien, j'avais pas besoin de le dire.
Positivement, hein. Au bout d'une dizaine de tentatives, j'en ferai un livre. Merci de votre attention.
Merci.
Bravo. Très joli porte.
Complètement fidèle, hein. Vraiment. À s'y méprendre.
On y va, vous êtes prêts pour le quiz?
Oui, l'histoire, je la connais pas encore, mais...
Alors, vas-y, Fred. Je vous propose un quiz en deux temps. L'un qui concerne la bande dessinée adaptée au cinéma.
Normalement, Freddy, il y a le foot, je regarde le foot, excuse-moi.
Et puis la deuxième partie, ça sera un quiz musical.
Ok.
Ok, on est chaud.
Donc le
Fred ne connaît ni le cinéma ni la musique, donc...
Non mais je suis lent.
C'est un quiz spécial Fred quand même, normalement il doit gagner.
Oh, je pense que tu vas voir Arnaud sous un autre jour.
Arnaud, tu
transformes en fait.
Il se transforme en bête enragé.
Super mauvais joueur.
Arnaud, tu pourras noter les points s'il te plaît? Je vois que t'as un stylo et un papier.
Oui, c'est pour te canaliser.
On y va. Donc là on est sur la BD adaptée au cinéma.
Attends, qui?
Je vous donne...
Excuse-moi Freddy, on ne hurle pas dans les micros. Ou alors, là, si on veut hurler, non, je parle pour d'autres personnes.
Ah ben, c'est pas à moi qu'il faut le dire.
C'est important. Non.
Je vous donne un nom, actrice ou acteur, et vous me donnez le nom de la BD qui a été adaptée au cinéma.
Attends. Le nom d'un acteur ou d'une actrice et le nom de la BD adaptée au cinéma.
C'est bon, il y a beaucoup de nanars dans le lot. Hein.
Oh là là,
ça va être dur ça.
Si je vous dis Jane Fonda.
Barbarella.
On va le donner
moi
à Ludo.
Ça je le savais mais je suis trop lente.
Pareil.
Ludo nous a fait un sujet dessus.
C'est j'adore ce sujet de pas crier dans le micro.
Oui,
c'est ça. Et qui est l'auteur de Barbarella?
Tu veux dire le réalisateur ou
le
Forest, J.M. Forest, et le réalisateur c'est Vadim.
Ouais. Ah, bien. Tu nous as fait un sujet d'une heure dessus, hein, donc
il fait marrer ce film là.
Il vient de se faire dans le pantalon.
Je suis tout timide.
D'ailleurs, il l'avait fait je crois au café dessiné.
Une petite mémoire au café des
un grand moment. On y va, suivant. Michael Youn, Jack Villeray, Olivier Barou.
Is no good.
Is no good.
Oh, mais merde.
Point pour Nico.
On se calme, c'est ce que je disais tout à l'heure. On se calme. On ne hurle pas dans le micro. On ne tape pas sur la table.
Sur
cette table. Cette table ne nous appartient pas, dis-nous.
J'ai besoin d'alcool.
À chaque fois, c'est moi qu'on stigmatise là-dessus. Mais en fait, je m'aperçois que je suis de loin le plus calme.
Ludo, tu voulais pas aller refaire une table quelque part en compagnie?
Ben, ça va être l'occasion.
On va faire celle de Fred.
Dis-nous, on n'est pas assuré.
Le point pour.
Moi-même.
Ben non, pour Nico. Thomas Sisley.
13.
Non,
Largo Winch.
Largo Winch.
Attention, vous avez cassé mon casque. Guilux, je ne vous entends plus. On m'a cassé mes lunettes. C'est bon.
J'arrête de compter les points. Moi.
J'ai pas entendu parce que mon casque s'est débranché. Au
alors c'est moi qui dis Largo Winch.
C'est Ludo.
Largo.
Tu mets les points, s'il te plaît, Arnaud.
Ça y est.
Attention, grand film. Christian Clavier, Jean Reno.
Les visiteurs.
Non.
L'enquête corse.
L'enquête corse.
Ah ouais, Pétillon,
bravo,
t'arrives.
Bravo.
C'est une blague.
Point pour Arnaud.
Moi, je réponds pas à ça.
Il a pas dit que c'était que des
bons films. La BD était vachement
bien.
La BD était très bien.
J'ai dit beaucoup de nanas. Benoît Magimel, Clovis Cordiac.
Tanguy la Verdure.
Astérix.
Ah non,
Tanguy la Verdure.
Le Chevalier du Ciel.
Le Chevalier du Ciel.
C'est pareil.
Arrête.
Tanguy la Verdure.
Fred a dit Tanguy la Verdure.
Oui, mais le film s'appelle Les Chevaliers du Ciel.
Les Chevaliers du
Ciel. T'as vu, ils sont chiants.
C'était quoi le générique du film?
Johnny, c'était Johnny.
Les Chevaliers du Ciel.
Non, on n'a pas de
franchement, moi, il ne tape pas sur la table. Ça
table pas.
Le point revient à Fred.
Oui.
Question suivante. Eric Cantona, Rachida Brakni.
Ah oui, attends.
C'est un truc sur le foot?
Non.
Attends, ça me dit quelque chose.
Ouais, moi aussi, ça me dit.
C'est pas l'outre-mangeur, non?
Oui, c'est l'outre-mangeur. Bien joué.
Mais d'un coup, il serait jamais revenu, bien joué. Par contre.
Le point pour Ludo.
Et ça, tu pouvais pas me le souffler.
Attention, question suivante. Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve.
Podane. Non.
Alors, j'ai entendu dans le public.
Je l'ai entendu dans le public, donc je ne vais pas le répéter.
Ah ben, c'est trop
pareil. Il a soufflé.
Voilà. Persepolis. Ouais.
Mais le point pour personne puisque voilà. Il avait
le
été
point pour le public.
Mais il peut faire ce qu'il veut, voilà, s'il a envie de me le dire, il me le
Didouille.
Dit.
C'est pas grave, on n'est pas assuré.
Question suivante. Exactement. Question
balance,
suivante.
Balance pas les gens.
Michel Galabru, Jean Rochefort.
Ah oh, putain. Michel Galabru et Jean Rochefort.
Ah, c'est pas d'hier, évidemment.
C'est intéressant. Est-ce que tu peux donner un indice?
Bah, je viens d'en donner deux.
Ah. Michel Galabru et Jean Rochefort.
Les galettes de Pont-Aven.
Non. Michel Galabru et Jean Rochefort.
Posez des questions, on va y arriver.
Ok. Est-ce que c'est plutôt un film qui date des années 70 ou plutôt 80?
Oh, je dirais même avant.
Années 60.
C'est quelque chose de très très connu en BD.
C'est très connu.
Les gendarmes à Saint-Tropez.
Est-ce que c'était réalisé par Christopher Nolan?
Non.
Ah oui, c'est vrai que tu as un amour particulier pour Christopher
Nolan. Sinon, Arnaud l'aurait déjà donné. C'est vrai.
Est-ce que
ça aurait été une grosse daube.
On connaît beaucoup, beaucoup.
Ah bah tiens, ça passe.
La BD est très connue.
Oui, la BD est très connue.
La BD enfin, est très connue.
C'est français?
Le titre qu'on cherche,
c'est une série française.
Très connue. C'est français, oui.
C'est adapté d'une série de plusieurs tomes ou c'est un.
Oui, c'est une série.
Une série.
Placide et Museau.
Il fait Hercule.
Pim pam poum.
C'est une série en bande dessinée créée par Louis Forton.
Oh. Ah, Les Pieds Nicklés.
Film des Pieds Nicklés.
J'aurais jamais su.
J'aurais dû le dire.
C'est Fred.
Première parution le 4 juin 1908.
Oui. J'ai failli.
Bonne réponse de Fred.
Il y a un film, Les Pieds Nicklés.
C'est chaud ça.
Louise Bourgoin, Mathieu Almaric.
Les aventures d'Adèle Blanc-Sec.
C'est Adèle Blanc-Sec.
Trop facile.
Pas qui l'a dit. Mais
il a dit Adèle Blanc-Sec. Il a pas dit les aventures d'Adèle Blanc-Sec.
Comme Tanguy la Verdure.
Attention, il y a un piège. François Morel, Mathieu Almaric, François Damiens.
Ah oui.
Fred va-t-il faire une passe décisive?
Redis.
François Morel, Mathieu Almaric, François Damiens.
C'est un film live où ils font juste les voix.
Ah, c'est peut-être ça le piège.
Ah, c'est ça le piège.
C'est quoi le piège?
Le roman de Renard. Non, le truc de Renard, non, c'est pas ça. Non,
Ernestine ou. Non.
Bécassine.
Le non. Truc Silex in the City.
Non.
Silex
non.
In the City, non. J'y fais un peu, il me semble.
Non.
C'est tiré d'une BD récente?
C'est pas. Enfin, oui, c'est contemporain, mais c'est pas récent.
D'accord.
Je vais vous donner la date.
Astérix?
Non.
Non.
Vous auriez pu faire Astérix de.
Oui, non, ça aurait pu, mais.
C'est pas
Tintin et Tintin de Spielberg, on sait jamais, les voix françaises.
Non,
c'était pas con ça.
Oui, le truc Harry Boulding là. Machin bidule et non.
Non, comment il s'appelle l'autre Benoît Brisefer?
Je vais pas vous donner l'auteur parce que l'auteur de la BD, il est très connu.
Ah oui, c'est lui. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est facile quand même.
Enfin, Franquin.
Gaston Lagaffe.
Gaston Lagaffe quand même.
Non.
Je dis ça, je l'ai pas vu.
Non.
Le film date de 2011.
Ah, 2011. Et c'est un film.
Le petit Nicolas.
Non.
C'est un film d'animation ou c'est un film live?
Non, c'est un film d'animation.
Un film d'animation.
Ah, ouais. Boule et Bill.
Non, un film d'animation, Didouille.
Ah.
C'est lourd.
C'est un moment.
Ouf. Une BD très connue.
Oui, enfin l'auteur est
je
très connu.
Je pense que l'adaptation a rendu.
Voilà, c'est gros mythe.
Non. Ah non, l'adaptation a remis, en lumière le.
Oui.
C'est plutôt. Clairement.
Et c'est plutôt un succès ou pas?
Mais oui, oui. À la fois la BD et le film sont.
C'est plutôt un sujet, je dirais.
Rigolo.
Ah, mais
je l'ai
oublié
de la langue.
Ou.
Ça m'énerve.
Ah oui.
Mais oui, parce qu'Amalric, il a pas fait 40 000 trucs.
Éditeur d'Argo.
Oui, ça y est. On connaît pas. Ça y est. Redis-moi les autres.
Amalric, Morel et
François Morel,
Damiens.
François Damiens.
Et c'est pas le truc de. Qui se passe avec De Villepin, là. C'est
non.
Pas ça.
Ah, qui est d'Orsay,
c'est pas ça.
Dis, c'est dur ta question.
Je vous donne le lieu d'action.
Ouais,
allez, vas-y.
C'est en Algérie.
C'est le chat du rabbin?
C'est le chat du rabbin.
Ah, putain. Oh, la vache. Bravo, je l'ai pas vu. Je l'ai lu, mais je l'ai pas vu. Jamais vu le film.
Ah, bravo.
Suivant.
Ouais.
Cadmerade et Valérie Le Mercier.
Ah bah ça c'est.
Ah bah c'est le petit Nicolas.
C'est le petit Nicolas. Bravo Didouille.
Bravo Didouille. Et elle l'a dit dans un ton très facile.
C'était ça, c'est ça.
Elle l'a même pas dit fort. Franck Dubosc et Marina Foïs.
Boulet Bill.
Ah ouais, en fait, les chefs-d'œuvre par contre, t'es bon.
Je vous emmerde.
Citizen. Et Bob Kane.
Je vous demanderai de ne pas répondre car cette question s'adresse à nos poditeurs. Alors, à gagner ce mois-ci,
le CD de titre de Victoria, qui est l'autre, l'ancien groupe de Georges qu'on a reçu tout à l'heure, qui s'appelle She Was. On fait
très
gagner
bien,
ce
très,
CD
très
de titre, qui est un beau cadeau, je trouve. Donc je vous demanderai de ne pas répondre, je pose cette question et vous répondrez après. Théo Fernandez, PEF, Jérôme Commandeur.
Je savais même pas, sincèrement.
Alors, on commence avec des titres qui ont une petite connexion avec la BD. Je vous demande d'être attentif.
Petite connexion, selon Freddy, ça peut être tordu, non ?
C'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais là, vous allez voir que c'est assez simple. On y va ?
Et alors, on doit dire quoi ? On doit deviner le titre et le titre ? On doit deviner quoi ?
Le chanteur, le groupe, l'artiste.
Et la chanson ou juste l'artiste ?
Julien Clerc.
Non.
Eddie Mitchell.
On avait dit rock.
Pas le titre, hein, juste. Oui.
Alors qu'il faut donner le titre.
Non, le chanteur.
On donne le groupe, l'artiste, le chanteur.
Et le lien là avec la BD, c'est pour les vieux fourneaux.
La chanson s'appelle Ciné Rock et Bande Dessinée. Ouais. Voilà, il vient de le dire.
Oui. Pardon.
Suivant.
Ouais.
C'est parti.
Ah oui.
Les Dalton, Joe Dassin.
Joe Dassin, bien vu Arnaud.
Écoutez, bonne chance, la cruelle et douloureuse histoire du frère Dalton. Il joue l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin.
Je veux le chanteur.
Joe Dassin.
Bernard Millet.
Plastic Bertrand.
Plastic Bertrand, bien sûr.
Astérix, c'est là.
Bon, je sors. Je quitte l'émission.
Reste, Fred, c'était la dernière du genre. Fred, est-ce qu'on peut donner ton âge ? Est-ce que c'est pas indiscret ?
53 ans.
C'est-à-dire que t'es né en
1965.
Alors, figure-toi que t'es pas le seul à être né à cette, dans cette année-là. Il y a aussi plein d'artistes et de groupes.
Ah oui.
Et on va essayer
donc
de...
l'année 65, c'est ça ?
Non, qui sont nés en 65 ?
Qui sont nés en 65.
Ah, d'accord.
Nés en 65.
Sont nés en 65.
Non,
comme
ils sont nés en 65.
Voilà. Le même karma, la même destinée.
Destiné.
C'est parti.
Guy Marchand.
Bjork.
Ah
ouais, pas mal.
Quel titre, Arnaud ?
Ah, c'est sûr que c'est plus classe que Plastic Bertrand.
Après, c'est plus de mal.
Hunter.
Ah, il faut trouver. Non, il faut trouver les titres quand même.
Non,
mais il me demandait.
Ah oui.
On y va. Un autre chanteur né en 1965 comme Fred. J'ai un fan à ma gauche.
Vous n'avez pas vu Mirza ?
Non, c'est plus vieux, Nino Ferrer.
Là, il jouait avec son groupe. Vous connaissez tous.
Danny Briand.
Ben oui, bien sûr.
Ah. J'aime pas.
C'est pas la question.
Non, mais je fais pas d'effort dans
ces coups.
Mais un point à Didouille parce qu'elle aime pas.
Pourtant, c'est génial.
Dans un tout autre genre.
Ah oui,
Eminem.
Snoop Doggy Dogg.
Non.
Dr. Dre.
Ah putain.
J'avais déjà l'autre dans la tête. Ça, c'est trop bien.
Il a le même âge que Danny Briand. Putain,
c'est fort.
Danny Briand, il fait vieux depuis.
Moby.
Ah oui, bien sûr.
Ah oui.
Je pensais que ça allait fuser.
Joli. Hey, t'as vu, il a des emmerdes, Moby, en ce moment.
Ah ouais.
Maintenant que tu l'as dit.
Ouais, parce qu'il a chopé un chant kanak.
Comment ?
Il est pour plagiat.
Dans un tout autre style à nouveau. Le suivant.
Pascal Obispo.
C'est Lucie. C'est
en fait, général, on se
plante. Il a pompé, Michel Polnareff.
J'ai écouté que de la variété, je sais pas possible.
Mais t'as pas un truc un peu.
On peut aussi connaître des choses qu'on aime pas.
T'as pas les Ramones ou un truc comme ça.
T'as pas un truc avec des poils autour.
Fred, voilà ta génération, t'as eu la gueule.
Ah non, c'est pas Lucie.
Génération des enchantes. Des enchantes.
Je refuse d'être né en 1965.
T'as raison, c'est Polnareff.
Tu voulais un truc avec du poil autour.
Il t'a quand même comparé à tous ces gens-là.
C'est pour toi.
C'est Katy Perry, ça.
Tout le monde connaît.
Ah putain.
Christina Aguilera.
C'est Pink. Non.
Shania Twain.
Arnaud, mais va te cacher. Trouve Obispo et Shania Twain.
Oh la honte.
C'était pas la poule de Lance Armstrong d'ailleurs.
Sacha Baron Cohen.
Non, c'était Sheryl Crow.
Sheryl Crow.
Un petit dernier.
Allez, cherche ça.
Je pense qu'Arnaud, c'est pour toi.
Perdre la mémoire.
Arnaud, ça doit être pour toi, le dernier.
Oui, c'est Jeanne Masse.
Non.
Non. Stéphanie de Monaco.
Oui.
Et tu sais quoi, je crois que c'était le même compositeur.
Romano Misumara.
Moi, je propose qu'on raille l'année 1965. On n'en parle plus.
C'est humiliant pour Fred, quand même, ce que tu viens de lui faire, là.
Ouais, il y avait quand même Björk, il y avait quand même...
Genre la génération de losers, quoi.
Bah, en même temps, on n'est pas très loin de 53 ans, hein.
Arnaud, est-ce qu'on peut faire un petit décompte des points, s'il te plaît?
Moi, je suis pas forcément fier, mais Fred a 2 points, Nico a 2 points, Didou il a 4 points, Ludo a 6 points et j'en ai 7.
Bravo, bravo, c'est bien joué. Bravo.
C'est joli, coiffé sur le fil comme ça. Magnifique.
Bravo Arnaud.
Magnifique.
Tu gagnes l'intégralité des BD de Fred là, son garo. Tu vas le voir tout à l'heure. C'est...
Ça va, t'as de la place pour les 4000.
Je te rends les commandes.
Eh ben, merci Freddy pour ce quiz très très instructif, hein, n'est-ce pas?
Ah oui, c'était super.
Tu as aimé Stéphanie de Monaco?
Non, beaucoup.
Tu es content de nous avoir invités à déjà.
Donc on commence nos coups de cœur avec Freddy.
Oui.
Freddy, es-tu prêt?
Je suis prêt.
Alors toi, tu as une petite musique.
Absolument.
Tu me dis quand tu veux y aller.
Allez, c'est parti.
Vas-y.
Alors moi, c'est un coup de cœur. Je vous parle du nouvel album de Gas Coombs qui s'appelle World's Strongest Man. Bien sûr, tout le monde sait qui est Gas Coombs autour de la table.
Mais bien sûr.
Mais oui, c'est le chanteur de Feu Supergrass qui mène une carrière solo depuis 2012. Et le déjà très remarqué Here Comes the Bombs. Deuxième album Matador m'avait beaucoup déçu. Et c'est avec une oreille plus curieuse qu'autre chose que j'ai lancé ce World's Strongest Man sur mon player au bureau. Et là, bim! La claque, le gaz a remis les gaz, le gars envoie du gras, du super gras même.
Oh, et joli!
Un superbe album qui sonne comme s'il devait être le dernier. Comme si Gas Coombs s'était dit « Allez, je donne tout, ça passe ou ça casse, et si je me plante, j'arrête là. » Bon, le résultat, il n'y a rien acheté. Toutes les chansons apportent une pierre à ce grand, grand disque personnel et abouti. Je vous laisse écouter.
Prévu de l'acheter celui-là. So place your oxygen mask on. Merci Freddy. Donc Gas Coombs, je sais pas comment ça se prononce, on vous mettra le lien sur le ça. Sur le site, ça sera plus simple, et il est sur la playlist de l'Entrepode pour l'épisode. Donc Arnaud, c'est quand tu veux, c'est parti.
Moi je voulais parler de Blow Up, qui est un format court d'Arte.fr que je ne connaissais pas et qui a l'air de tourner depuis pas mal d'années, qui est alimenté très très régulièrement de manière hebdo voire plus, qui est un format court créé par Luc Lagier. Il y a également d'autres montages qui sont faits par Thierry Joux, qui est à mon avis un ancien de Première, c'est le nom dit quelque chose. Enfin voilà, des vrais passionnés de cinéma qui abordent des thématiques aussi variées que Steven Spielberg en 9 minutes, Brian De Palma en 6 minutes, les génériques de Lars von Trier, les pires films de requins, je pense à Ludo, les pires looks de Javier Bardem, enfin voilà, et, à limite, peu importe, au travers de la thématique, il y a un montage très serré, mais qui t'évoque à chaque fois des plans de films que parfois t'avais oublié ou sur lesquels t'avais pas forcément tilté, et qui les mettent tous en regard aussi, des films en regard les uns des autres. C'est un format court, vraiment, pour ceux qui aiment le cinéma, à vraiment aller voir, quoi.
C'est bon. Oh, et en plus tout ça dans un timing parfait.
Parfait.
Magnifique, Arnaud. Et donc on va continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc à mon tour, et je vais vous parler d'un concert et d'un groupe plutôt, qui est le groupe A Perfect Circle, qu'on a eu l'occasion de voir au Hellfest la semaine dernière. Donc A Perfect Circle, c'est un super groupe, c'est-à-dire qu'il est constitué de membres d'autres groupes. Il est formé à l'initiative du guitariste Billy Howerdell, avec le chanteur du groupe Tool Maynard James Keenan, et il contient d'autres membres d'autres groupes comme par exemple James Iha de Smashing Pumpkins, ou de temps en temps Wes Borland de Limp Bizkit, ou encore John Freeze. Là, je vous passe le titre du dernier album, Eat the Elephant. Le titre s'appelle So Long and Thanks for the Fish, qui rend hommage aux personnes de la culture récemment décédées, de Gene Wilder à David Bowie, Mohamed Ali ou Carrie Fisher. J'adore les orchestrations, les arrangements,
et je suis assez assez fan. On a eu la chance de les voir au Hellfest la semaine dernière et vraiment c'était un super moment. Je vous laisse avec ce morceau pour les quelques dernières secondes.
Ça a l'air bien ça.
C'est très très bien. Et donc, si vous voulez en écouter plus, ça sera également sur la playlist. Et vraiment, c'était un super moment. Et
très beau concert.
Comme quand on entend de tout au Hellfest.
Ouais, exactement. Tout à fait.
C'est un concert très, 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 ouais. Très posé, très, très, très agréable.
Très visuel.
Très visuel, très visuel. Ouais. Ouais. Magnifique.
Alors, Didouille. Alors, toi, tu as aussi.
Un petit son.
Didouille, tu as un petit son. Et un son de. De saison.
On de saison.
Hein, tu veux. Attends, tu veux un petit. Truc
un petit son.
Non, mais tu veux la minute ou tu.
Oui, vas-y, fais-moi la minute.
C'est parti. Fais-moi la minute.
Voilà, fin de l'année. Et ça, ça se fait.
Parce qu'on sait que Fred aime la grande musique.
J'ai que hâte, j'ai que hâte. Non, c'est aussi pour parler de la clôture de la saison culturelle de la communauté de communes de Lyon-Sandel. Vous avez parlé de la Spark Company qui avait décidé de mettre en spectacle la bande dessinée Zai Zai Zai.
Zai.
Zai. Et j'aurais pu mettre Icaza, non, ou Enrico Macias, je sais pas, mais toujours est-il que tout le monde, oui, oh, tout le monde a participé, c'était super, mais le spectacle de la compagnie était juste à tomber par terre, et Ludo peut vous le dire.
D'ailleurs, oui,
il me l'a dit aussi.
Très,
ouais.
Très réussi.
Il se demandait comment ça, ça pouvait être mis en scène. L'adaptation a été super par la Spark Company. Voilà.
J'étais impressionné.
Eh ben, merci Didouille.
L'école est finie.
Parfait. Ready, Monsieur Ludo.
Oui, je suis prêt.
C'est Ludo, c'est parti.
Oui, mon coup de cœur à moi, c'est en fait, c'est un film que je suis allé voir à l'Omia mardi soir, qui repassait en version remasterisée, un classique du Cinoche. C'était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, qui est sorti en 68, qui est en fait qui est un film. Bon, évidemment, c'est pas une nouveauté, mais c'est juste. C'est juste une pure merveille ce film-là. L'avoir revu sur grand écran, plus dans la salle Miroin de l'Omnia, franchement, avec la musique, les acteurs. Claudia Cardinal, elle a jamais été aussi belle que dans ce film. Elle est filmée, mais magnifiquement. Fred, tout à l'heure, on a discuté, tu faisais référence à un plan, le plan d'entrée de l'arrivée de Gilles dans la gare de la ville. Et c'est juste magnifique, en fait. C'est vraiment avec cette montée, on découvre la ville. Tout y est, en fait. Je veux dire, Tarantino, tout un tas de cinéastes qui redécouvrent aujourd'hui certains, enfin, en tout cas, qui mettent au goût du jour certaines mises en scène. Tout était déjà là. Je le conseille vraiment. Je sais pas où j'en suis dans mes 60 secondes chrono.
Eh ben, t'en es pile à la fin.
Mais voilà. Allez le voir si vous le connaissez pas et revoyez-le si vous l'avez déjà vu. C'est un chef-d'œuvre.
Merci, Ludo. Fred, à ton tour, as-tu, toi, un petit coup de cœur, quelque chose à partager avec nous, un coup de gueule ou quoi que ce soit? Je te laisse la parole. C'est parti.
Bah, moi, je vais parler du livre de Philippe Lançon. Donc, Philippe Lançon, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui a survécu à la tuerie de Charlie Hebdo et qui a donc eu une balle dans la face, dans la mâchoire. Et donc, ce livre s'appelle Le Lambeau. Ça raconte sa reconstitution physique, c'est-à-dire ses mois d'hôpital. Et voilà, alors il commence par raconter de son point de vue, de ce qu'il ses souvenirs du carnage. Puis on parle de sa reconstruction et donc de ses rapports avec il parle de ses rapports avec sa chirurgienne notamment. Et voilà, bon, ça c'est pour le résumé. Après, c'est surtout j'ai envie d'en parler parce que c'est un énorme coup de cœur littéraire. C'est un magnifique livre, extrêmement bien écrit. On a un écrivain aîné, vraiment. Oui. Vraiment. Et je pense que c'était la meilleure réponse à faire à tout ça, à faire à cette tuerie, c'est qu'une œuvre, une œuvre aussi belle en ressort. Alors évidemment, ça ne fera jamais ressusciter les morts. Mais voilà. Et c'est important parce que vraiment, moi, depuis le départ, peu de choses pour vous donner mon avis sur le sujet, mais on est quand même très très nombreux, je pense, à penser que seul l'art, la beauté de l'art peut répondre à la barbarie. Voilà. Et donc là, par quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, je pense que tout est dit. Voilà.
Très bien. Bah, écoute, merci. Et on a fait le tour des coups de cœur. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci Fred, merci.
Bah, c'est moi.
Oui,
je vais avoir invité.
Je
viendrai vraiment dans 3 ans.
Je l'ai dit, mais t'as parlé en même temps, Didouille, tu m'as coupé.
J'ai pas parlé en même temps pour une fois. Attends.
Donc oui, je vous remercie. On vous remercie tous les deux de nous avoir si sympathiquement accueillis.
passé un très bon moment, une très bonne après-midi.
Merci
super.
À vous aussi.
Ici.
Bon montage. Je crois que t'es boulot, hein.
Je crois qu'il a été un tout petit peu en pointillé. En tout cas, on espère que nos auditeurs auront passé un bon moment, qu'ils auront appris des choses et qu'ils se seront bien amusés. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment. N'hésitez pas à nous en faire part. Vous retrouverez tous les liens de ce qu'on a pu présenter sur le billet, sur le site. N'hésitez pas à nous laisser un mail, un podcast, un message sur le site du podcast, etc. On se retrouve, on sait pas trop quand.
Oh, c'est vacances.
Il faut qu'on se fasse un.
Petit peu les vacances,
il faut qu'on se fasse une petite AG entre nous là pour savoir si on continue la rentrée, si oui, comment, quand, etc. Voilà, on va bien voir tout ça. Et puis d'ici là, est-ce que on va. Non, tout le monde va être en vacances, donc on va nous retrouver nulle part. Hein, là, on va faire une petite pause. En tout cas, c'est le moment de se quitter. Et puis, qu'est-ce qu'on dit en général quand on s'en va ?
Allez,
bisous. Salut, merci.
Ça, c'est le drame de ma vie depuis 20 ans.
C'est le problème d'enregistrer les orthopodes pendant un match de foot. Christophe, qui a le.
Juste qu'on te pose parce qu'il y a un but.
Bien sûr. Je vais le regarder. Il faudra faire du coup de montage.
Je joue plus à ça après.
Alors la France mène 3-2.